Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour Asa.
T'as vraiment coupé mon micro pendant le...
Mais t'étais en train de boire pendant le générique, donc du coup j'ai baissé ton micro de façon à ce que les gens ne t'entendent pas déglutir par-dessus ce fabuleux générique.
Je pense pas que j'aurais dégluti assez fort pour passer par-dessus le générique.
Tu t'es dégluti super fort quand même. Il faut qu'on ait cette conversation un jour. Hein. Mais... C'est un problème. Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'épisode numéro 2 de La Belle et Gamer.
Pourquoi 2 ?
Non, 316 en fait. Oui. Épisode numéro 316,
nous sommes... À l'épisode 2, on était beaucoup plus réservé et tout. On était impressionnés, quoi.
Et on parlait de quoi comme jeu ? Super Mario Bros. 2 ?
Non, c'était pas si vieux.
Lundi 11 mars 2024, c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Merci de passer cette prochaine heure et demie environ. Je préchote la durée de l'épisode.
C'est ça, généralement.
Avec nous, ça risque d'être un peu court. Hein. Il se passe des trucs. Il y a plein de fausses news cette semaine. On en viendra, mais je tease.
C'est Julien Chiez encore ?
Non. Pas possible.
Ou c'est Exerve ? C'est un des deux.
C'est un des deux. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même Ben ? On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où on peut trouver des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles.
Ah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau Patreon, non ?
C'est ça. alors, non mais du coup, on en désigne un. Stéphane.
Stéphane,
tu te reconnais, toi, Stéphane, patreon.com/labelleetlegamer, ça coûte 4 euros plus les taxes, parce que la TVA, c'est, voilà, parce que pour chaque abonnement...
Combien ?
À 20% de TVA en France. Pour chaque abonnement Patreon...
Sur Patreon ?
Pour chaque abonnement Patreon...
Mais des taxes sur Patreon ?
Surtout, il y a des taxes sur tout. À chaque fois qu'il y a un mec qui s'abonne, il y a 20% qui part pour Emmanuel Macron. C'est la France...
Ah ouais.
Est-ce que tu es prête à te lancer dans le vif du sujet ? Le vif du sujet étant les jeux auxquels on a joué cette semaine.
Oui.
C'est parti. J'espère que vous êtes prêts chez vous, accrochez-vous. Pas beaucoup. Il y a des trucs bizarres cette semaine. Avec un peu de retard, j'ai testé.
Oui, moi j'ai pas testé des trucs bizarres cette semaine.
Non, toi t'as joué à Honkai Star Rail.
Oui, comme d'habitude.
Comme d'habitude, toutes les semaines depuis 6 mois maintenant.
6 mois, tu dis ? Non, plus que ça. C'est pas sorti avant ça ?
À peu près.
Ah bon,
okay. À peu près. Non, j'ai testé Balatro.
Ah oui, non, mais c'est nul Balatro.
Non, c'est bien Balatro.
Ah, pardon.
Voilà.
Je me suis trompé.
C'était un débat. Le débat le plus court de l'histoire de la Belle Gamer. Balatro, c'est vachement bien.
Non, c'est nul Balatro, je suis désolé.
C'est vachement bien.
Non, c'est nul.
C'est un mélange entre le poker et Hades, en fait.
C'est ça. Les
règles du jeu.
Non mais attends. Déjà, on en a parlé la semaine dernière.
Et c'est ça qui m'a intrigué.
Et tu as dit que c'était un scandale parce que ce jeu était interdit.
Ouais.
Mais vraiment interdit, pas déconseillé.
Ouais.
Interdit au moins de 18 ans sur les plateformes. Donc il avait disparu de toutes les plateformes, sauf de Steam.
Exactement.
Et donc il était mis au même rang que des jeux porno et voilà.
Merci pour ce rappel de l'épisode précédent. Effectivement, c'est comme ça
et
que...
Et ça en est où cette histoire ?
Previously sur La Belle et Gamer. Alors ça en est où ? C'est revenu parce qu'effectivement ils se sont plaints, ils ont fait appel.
Parce que quand même c'était un peu exagéré.
Voilà. Ils ont fait appel et les organismes de classification, ils ont répondu « Ah lol, ouais c'est vrai, on est cons ». Et
ouais, mais j'espère qu'ils ne l'ont pas remis à 3 ans et plus, hein, parce que là, c'était aussi exagéré.
Je ne sais pas combien ils l'ont mis. En tout cas, il est à nouveau dispo sur toutes les plateformes, dans toutes les régions. Aux dernières nouvelles, et je crois que c'était vendredi, la dernière fois que j'ai regardé, le seul endroit où il n'était pas encore disponible pour l'instant, c'était sur Nintendo Switch, sur la région Japon.
Ah ben, c'est normal.
Non,
japonais,
c'est pas normal.
Il ne faut pas qu'ils apprennent le poker.
Non, c'est dangereux. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas avec Balatro que tu vas apprendre le poker. Parce que si tu vas dans...
quand même un peu.
Non.
Je suis désolée.
Si tu joues 50 heures de Balatro, et qu'ensuite tu vas dans un vrai poker...
Ah non, t'as l'air con.
Qu'on te file deux cartes en main, alors que t'en attends 12. que tu attends d'avoir une carte Pluton et des cartes de tarot pour jouer et que...
Non, on est d'accord.
Voilà, non.
On est d'accord, mais quand même, moi, dans ma la main... base de Balatro, c'est les règles du poker.
Moi, dans ma main de Balatro, j'ai 12 cartes, dont...
Trois les mêmes.
Dont trois as de pique. Un des trois. Sur les trois as de pique.
Mais c'est ça. Il y en a un... Déjà que tu joues au poker, en ouais. plus, tu triches. Et le jeu t'incite à tricher.
Exactement.
C'est le pire.
Sur mes trois as de pique, il y en a un brillant et un en fer.
Oui, c'est vrai.
Il y a deux cartes. Toutes les cartes cœur sont boostées. À côté, j'ai une pile de 5 jokers. Hein, j'ai un petit sac avec des cartes de tarot que je peux utiliser à n'importe quel moment pour augmenter la valeur de mes cartes et transformer tous les piques en cœur. Donc tu vois, si t'attends d'avoir ça au casino, tu vas perdre.
Tu vas attendre longtemps.
Ça te donne pas les bons réflexes, si tu veux.
Non, c'est vrai. Mais la base, c'est les règles du poker.
J'ai construit un deck qui me permet d'avoir 85% de chance d'avoir une suite. Ça aussi, c'est pas les bonnes stats.
Ah non, c'est après, mais c'est ça qui me stresse en fait dans Balatro, et c'est ça que j'aime pas, c'est que ils respectent pas les cartes.
Ah non, ah non, ils vomissent dessus.
Ils ne respectent pas les cartes. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le poker, c'est de compter les cartes.
Ah moi, ce qui me plaît dans le poker, c'est de chier dessus, tu vois. C'est ça qui me plaît. Donc effectivement, Balatro qui fait n'importe quoi avec les règles du poker, ça me fait rire.
Ouais, c'est vrai.
On va revenir quand même un petit peu retour rapide.
Enfin, moi, ça me fait pas rire, mais la base, je vois le...
Balatro est un petit jeu indépendant développé par une personne disponible actuellement sur Switch et PC, sans doute sur autre chose. Il faudrait aller sur Mac aussi, également, si vous avez un ordinateur Apple. Quelle idée bizarre. Hein, vous pouvez aller télécharger Balatro. C'est un jeu indépendant. Visuellement, c'est très pixel, très à l'ancienne, avec par-dessus un filtre CRT qui te donne un petit peu la courbure des anciens écrans et les lignes de scan. Ça rappelle beaucoup dans la réalisation, dans les graphismes et dans la musique, un petit jeu indépendant auquel j'ai joué il y a quelques années qui s'appelait Loop Hero.
Ah, Loop Hero, ouais, c'est vrai.
Même type de musique, même type de graphisme, même type avec les filtres par-dessus, il y a un petit peu un ADN de ça. Ouais. Donc, c'est un roguelike basé de très loin sur le poker.
Arrête de dire de très loin. Le principe, c'est de faire les...
Tu joues pas contre... Alors, j'explique le principe.
Hein. Le principe, c'est de faire les trucs du poker, quoi.
Oui, c'est vraiment... Et c'est la seule chose qui le rapproche du poker. Ouais.
Tu gagnes de l'argent et tu achètes des choses avec ton argent. Ça aussi, ça le rapproche du poker.
Non. Dans le poker, tu n'achètes rien avec ton argent, tu repars avec.
Tu vas t'acheter un Big Mac.
Tu vas t'acheter un Big Mac si tu veux et tu ne gagnes pas de l'argent de la même façon. le principe, c'est que tu as il y a plusieurs manches à faire successivement. Généralement, sur chaque round, tu as trois manches. Première manche, deuxième manche et un boss.
Petite blend, grosse blend et un boss.
Voilà.
Donc pas du tout les règles du poker.
Non, c'est pas les règles du poker. C'est-à-dire que ça réutilise la terminologie du poker, mais ça n'a pas du tout la même application.
C'est ça.
Et à chaque fois, tu te bats pas contre un adversaire, tu dois faire un score.
Oui.
Tu dois faire un score, par exemple.
Ah oui, il y a des maths aussi.
Il y a beaucoup de maths.
C'est pour ça que ça me plaît pas. C'est parce qu'ils respectent pas les cartes et parce qu'il y a des maths.
En gros, si tu veux, la première manche, tu dois faire 300 points. J'essaye d'expliquer.
C'est bon, je ferme ma gueule.
Chaque main que tu fais, on lui associe un multiplicateur. Par exemple, les paires rapportent x2, les brelans rapportent x4, les suites rapportent machin. Et tu vas prendre les valeurs de tes cartes et tu vas multiplier par ton multiplicateur. Par exemple, si tu as 2 neufs dans ta main, tu as une paire de neufs, tu vas poser une paire de neufs. Ça va t'additionner les 2 neufs, ça fait 18. Et comme c'est une paire, le multiplicateur c'est x2, ça fait 36. Voilà, ça t'encaisse 36 points. Donc tu as déjà 36 sur les 300 que tu dois faire pour gagner cette manche. Tu as un nombre limité de mains que tu peux faire. Et donc il faut atteindre ce nombre de points. À partir de ces règles de base, tu vas pouvoir appliquer des tonnes de modificateurs supplémentaires. Par exemple, c'est les jokers qui font ça. Entre les manches, tu vas accumuler des jokers et les jokers vont avoir des effets spéciaux qui vont s'appliquer sur toute la partie. Par exemple, tu vas avoir un joker qui va te dire à chaque fois que tu joues un cœur, tu rajoutes un multiplicateur de x4. Donc ça veut dire que si jamais tu fais une couleur à cœur, bah, tu vas rajouter la valeur des 5 cartes que tu as jouées plus le multiplicateur de la couleur qui doit être un x32, un truc comme ça. Et ensuite, pour chaque carte cœur que tu as joué, c'est x4, 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 x4. Alors tout de suite, tu commences à avoir des scores qui sont plus de 32. Tu as des scores qui sont de 10 000, 30 000, 50 000. Tu fais des scores de fou parce que tu as fait un petit peu de maths. Tu as aligné des jokers qui font des synergies entre eux et tu fais des scores de fou.
C'est ça.
Pour avancer. Parce que première manche, il faut faire 300. La deuxième, il faut faire 600. Ensuite, il faut faire 1000. Ensuite, et ainsi de suite. La toute dernière manche, il faut faire 100 000 points, quoi.
Et donc, c'est ça que tu achètes avec l'argent, enfin, avec la monnaie que tu gagnes.
Quand tu gagnes une manche,
c'est ça que tu achètes.
Il te file quelques dollars, tu as une boutique et tu vas choisir. Et la boutique te donne des jokers. Mmh. Et tu dis, bah, je vais acheter ce joker-là et celui-là. Je vais acheter cette carte de planète, par exemple. Si tu, les cartes de planète, tu as la carte Mars, Saturne, machin. Ça augmente la puissance de certaines mains. Mmh. Bref, tu as plein de façons d'améliorer ton jeu.
Ouais.
Pour faire de plus en plus de points. Et en fonction de ce que tu vas trouver à la boutique, tu vas pouvoir orienter un petit peu ta partie dans un certain sens. Par exemple, tu vas dire, là, à cette partie-là, je vais tout mettre sur les couleurs, je vais convertir toutes mes cartes en cœur, je vais faire que du cœur, je vais avoir des multiplicateurs qui se déclenchent à cœur et tout, donc tu vas faire vraiment combo, tu vas tout miser là-dessus et tu vas pouvoir faire des scores de fou. Jusqu'à un moment où tu vas tomber sur un boss qui va te dire, moi, en tant que boss, ma capacité spéciale, c'est que je désactive tous les cœurs. Donc là, t'es baisé.
Là, t'es dans enfin,
tu peux tomber des trucs ouais, comme ça. Okay. Et c'est pour ça que ça a ce côté un petit peu roguelike, c'est-à-dire que tu vas vraiment, en fonction des bonus que tu as dans ton run, tu vas vraiment pouvoir casser le jeu et faire des trucs surpuissants qui vont marcher sur cette partie. Et après, la partie suivante, tu vas la faire complètement différemment parce que t'as pas les mêmes jokers, t'as pas les mêmes trucs. Voilà. C'est vachement prenant. Les parties vont vite, c'est simple à prendre en main. C'est vraiment très, très fun. C'est un jeu qui sort un petit peu de nulle part. Il est sorti donc la semaine d'avant maintenant. Il s'est déjà vendu à 500 000 exemplaires. Donc c'est un carton. Ouais, non, c'est un carton. Donc il y avait cet aspect poker vu de loin qui a un petit peu fait peur aux organismes de classification, mais ça n'a pas tenu longtemps parce qu'effectivement, c'est quand même. Voilà, honnêtement, c'est quand même assez loin du poker. Ça va juste te rappeler les mains, tu vois, mais. C'est pas les règles du Texas Hold'em qui se joue au casino, tu vois, c'est vraiment...
C'est les règles, mais c'est n'importe quoi, ouais, après.
C'est les règles, mais c'est n'importe quoi.
Après, je pense quand même que l'aspect poker et le fait de que ce soit un jeu qui s'inspire du poker, ça va attirer, mais genre même juste les jeunes pour aller...
Ouais, ouais, non, mais
ils sont attirés par le truc interdit, quoi, tu vois.
Oui, oui, mais pourquoi pas. Après, comme dit, ils sont attirés, ils achètent Balatro, tout le monde est content, ils jouent à Balatro. En ressortant leur partie de Balatro, ils sont pas plus forts qu'avant au poker. Hein.
Ils connaissent les règles.
Mais ça, tout le monde les connaît, je veux dire, oui, quand t'as trois cartes pareilles, c'est trois cartes pareilles.
Non. Et c'est... quand même.
Et Balatro invente des nouvelles mains aussi.
Ah bon ?
Et oui.
Ah, il y a des nouvelles mains dans Balatro ?
Ah, il y a des nouvelles mains, parce que forcément, si tu as cinq fois la même carte.
Ah oui, non, mais 5 fois la même carte, ouais, évidemment.
Ouais, mais je le reconnais, tu vois, il y a une logique. Oui, il est pas con, tu vois, tu fais « Ah, t'as 5 fois la même carte, effectivement, en vrai, ça n'existe pas, mais on va quand même te récompenser parce que tu l'as fait dans le jeu. »
Bien sûr.
Il y a ce genre de truc qui fonctionne, donc c'est marrant, c'est plein de petits détails bien foutus, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait. Le jeu est pas super cher, je sais pas à combien il sort sur la boutique, je crois qu'il est à 20 balles.
Il est à 20 balles ?
Oui.
Ah bon ? Ah, moi, je pensais 15. Qu'il est...
Putain. 15.
Alors, pardon, mais...
14.
Je pensais...
J'ajuste hein, au fur et à mesure.
Non, mais je sais pas, ça me choque.
Ah, toi, tu le voyais à 2 euros, quoi.
Oui, complètement. Je suis désolé, hein, mais... Se fasse payer.
Bah, écoute, il est à 14, il en vend quand même 500 000, donc tu vois, le prix est bon. Hein.
Ouais, ouais, le prix est bon. Non, mais je veux dire, par exemple, on avait Vampire Survivor qui était à 2 euros, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi.
Vampire Survivor, c'était l'anomalie. Hein. Si jamais il y a des jeux à 2 euros, c'est extrêmement rare. Et Vampire Survivor, avec le carton qu'il a fait, il aurait pu le mettre à 15 euros, il s'en mord les doigts aujourd'hui, mais...
Ah, mais clairement, c'est con.
Eh oui, bah voilà, c'est ça. Hein. Au bout d'un moment, on est là pour vendre son travail.
Bah, tout à fait.
Il aurait pu devenir riche. Il est devenu riche. Ouais, ça va.
Bah après, le fait que ce soit à 2 euros, bah, ça attire aussi. Peut-être qu'il en a vendu beaucoup plus que ce qu'il aurait vendu à 15. Hein.
Complètement. Complètement. Donc voilà, Balatro, on est repassé dessus. Donc ouais, la news, c'est que ça y est, tout va bien, ça s'est calmé, le jeu est de retour sur...
Tout va bien, vos enfants peuvent continuer à apprendre le poker.
Vous pouvez apprendre le poker à vos enfants. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui utilise le vocabulaire du poker, ce genre de choses, là... Mais ça suffisamment avec suffisamment de recul pour que ça soit pas choquant, à mon avis. Après voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Unicorn Overlord est sorti cette semaine.
Oui.
Asa, très bien, Unicorn Overlord. Allez jouer à Unicorn Overlord, c'est cool. Non, alors, on va faire la revue de test.
C'est bien
tout
parce
à
que on se dispute quand on joue à Unicorn Overlord en fait.
Ah, je me fais engueuler parce que j'ai mal. Parce que mes unités sont pas optimisées. Mais comment ça, ton unité, tu n'as pas mis le cheval en chef d'unité? Bah, du coup, forcément, ton déplacement est pourri et tu te fais choper par derrière, par les ennemis. Et moi, je me fais engueuler, tu vois.
Après, mais attends, à chaque fois, tu
me fais shamer pour mes capacités tactiques.
Tu te fais shamer pour tes capacités tactiques, c'est exactement ça. Mais à chaque fois, tu finis avec des unités à zéro en plein milieu du machin qui se font gangbanger par tout ce qui passe. Oh, quand ils sont à deux ou un, tu les mets à... Tu les mets à la ville, au repos, et qu'est-ce que c'est que ça?
Les gens, quand ils nous voient, ils font « Oh, vous faites un beau couple et tout, qu'est-ce que tu y trouves à Ben ?»« Ah, oh, Ben, c'est sa supériorité tactique et stratégique. Qui... » Non, c'est ça. Hein.
Mais justement, non.
Justement, non. Non, moi, je suis une buse en jeu tactique, c'est comme ça.
Non, t'es pas une buse.
Un petit peu.
T'es pas une buse, t'es trop impatient.
Unicorn Overlord est donc la nouvelle référence des jeux de stratégie tactique. Non, c'est cool, on en a déjà parlé il y a deux semaines quand ils avaient sorti la démo. C'était une immense démo de presque 7 heures. N'hésitez pas à aller la faire de votre côté si vous êtes un petit peu curieux. Le jeu est disponible depuis vendredi sur PlayStation et sur Nintendo Switch.
Vous récupérez ce que vous avez fait dans la démo.
Ouais, voilà. Vous récupérez votre sauvegarde de la démo, donc c'est rentable. Et c'est vachement bien. C'est donc le nouveau jeu de Vanillaware, développeur. Alors c'est un développeur qui assez éclectique, qui font des jeux assez différents à chaque fois. La dernière fois qu'ils ont fait un jeu, c'était 13 Sentinels. Il y a quelques années, c'était vraiment bien, mais dans un style complètement différent. C'était très visuel novel avec avec un scénario qui te retourne le cerveau avant la fin. Et des phases de combat qui nous avaient moins plu à l'époque. Hein, si vous récupérez.
Ah oui, c'est vrai.
Les phases de combat, c'était un petit peu tower defense. Graphiquement, il n'y avait rien. C'était très bizarre.
C'était celui-là de jeu ?
Ouais, tout à fait. Ça alternait les deux choses. Hein. Il y avait le côté visuel novel, l'histoire qui était fantastique. C'est vraiment une référence dans le genre.
Combats, c'était pas top.
Les combats, donc, ouais, mais après, il y a toujours la possibilité de mettre le jeu en facile, mode histoire, machin. Oui. Les combats, ça va très vite. Tu peux presque les skipper. C'est pas l'intérêt de ce jeu-là. L'intérêt de ce jeu-là, c'était pas non plus les adolescentes qui étaient obligées de se mettre nues pour monter dans leur robot.
C'est vrai.
Il y avait des choix étranges dans ce jeu. Et de manière générale.
Mais c'était ça ?
Oui. Oui, c'était ça, 13 Sentinels. De manière générale, les jeux Vanillaware, dans Unicorn Overlord, pour l'instant, il n'y a pas d'adolescentes
nues.
Attends,
c'était ça ? Elles étaient obligées... C'était celui-là où elles étaient obligées de se mettre à poil dans leur truc ?
Absolument, oui.
Ah bon.
Mais bon, c'est pas ce qu'il faut retenir du scénario, parce qu'il y avait des trucs cool dans le scénario quand même. Et Unicorn Overlord part pas dans ce délire-là, c'est beaucoup plus sage. On est sur une histoire très médiévale fantastique, très traditionnelle, avec le méchant magicien qui a conquis le monde. Alors, stratégie, ça va pas, la grammaire, c'est nul.
C'est compliqué.
On n'est pas bien là. Non, donc le méchant magicien qui a conquis le monde, mais heureusement, toi, le prince héritier, c'est à toi de rassembler une armée pour récupérer et reconquérir, là j'ai le droit, le monde entier. Et c'est littéralement une armée que tu vas amasser, hein, parce qu'à chaque combat, à chaque rencontre, à chaque quête, tu vas tomber sur des gens qui vont venir étoffer les rangs de ton armée de la libération. C'est un jeu de stratégie tactique au sens où c'est ça que tu vas gérer dans les combats. Tu vas faire des petites unités, des petits bataillons de 2, 3, 4, 5 unités en fonction de comment tu avances dans le jeu. Et tu vas faire tes petites unités comme ça et tu vas essayer de les équilibrer un petit peu. Tu vas dire, voilà, sur cette unité-là, devant, je vais mettre un mec avec un gros bouclier, derrière, je vais mettre une prêtresse qui soigne et une sorcière qui envoie des sorts. Sur l'autre, je vais mettre un mec à cheval et derrière, il va y avoir un voleur qui est en soutien et un archer. Donc, tu as vraiment une variété d'unités différentes pour faire tes petites escouades. Et tu les envoies sur un champ de bataille, donc tu as une map de la région complète avec les villes à attaquer, les unités
les
ennemies.
Les points, les forts, voilà.
T'as des points stratégiques, tu as des villes à capturer et tu as l'objectif final, généralement c'est un méchant à aller tuer. Mmh. Et tu vas envoyer tes unités, tu vas dire voilà, telle unité, tu vas faire le tour par là parce que c'est des gens à cheval, ils sont un peu rapides, ils ont la possibilité de faire le tour et en plus, comme tu as avec les mecs à cheval, tu avais mis des archers, et bah c'est assez adapté pour les unités volantes que tu vas croiser sur le chemin. Mmh. Cette autre unité, tu vas la faire passer tout droit parce qu'ils sont très résistants, ils vont pouvoir faire barrage aux unités qui viennent de front. Tu vas faire ta stratégie comme ça, qui va se dérouler, et ensuite les combats vont se faire à chaque fois qu'il y a une unité à toi qui rencontre une unité ennemie, il y a le combat qui se fait, et ça par contre c'est de l'auto-battle. Le combat se fait automatiquement, le jeu te renseigne avant en disant voilà, si tu engages ce combat-là, toi tu vas perdre 5 points de vie, mais ton adversaire il va en perdre 65 et tu vas le tuer, donc ça va bien se passer. Ou alors il va te dire attention, contre cette unité, tu vas pas faire de dégâts, c'est lui qui va te massacrer, donc tu ferais mieux d'éviter le combat. Mmh. Donc tu peux vraiment planifier ta stratégie comme ça et faire tes batailles à grande échelle. Et une fois que tu as atteint les objectifs à grande échelle, la bataille, elle est faite, la quête, elle est finie, et la région, elle est libérée. Et à ce moment-là, tu passes sur une phase de gestion où tu peux aller dans les villes pour améliorer tes unités, acheter de l'équipement, recruter des troupes, agrandir tes bataillons, et tu progresses comme ça. Donc c'est assez original. Alors ça va utiliser pas mal de choses qui sont empruntées à d'autres jeux de stratégie tactique, mais en apportant également des idées qui leur sont propres. Un style graphique qui est vraiment...
C'est pas mal, ouais.
Ouais, alors style graphique, c'est Vanillaware, hein, c'est dessiné à la main. Mmh. On dirait des illustrations... tu sais, quand ils te vendent avec le jeu, le livre d'illustrations et tout, les machins comme ça, on dirait que c'est ces illustrations-là, mais qui sont dans le jeu et qui sont animées.
C'est ça.
C'est très particulier, mais ça rend bien, c'est magnifique. Visuellement, c'est assez unique.
Très sympa, ouais.
C'est le style de Vanillaware, ils ont toujours fait des choses comme ça. Et le jeu est vraiment plaisant. On avait fait la grosse démo il y a 2 semaines, on en a parlé. Hein.
Oui.
Là, le jeu est sorti, il est sorti ce vendredi. On remercie Sega Atlus de nous avoir fourni un exemplaire du jeu pour qu'on ait pu continuer après la démo. Alors, la suite après la démo, ça se fait tout seul. Hein. Tu lances le jeu final, il reconnaît la sauvegarde, tu te dis voilà, tu reprends après ta sauvegarde et c'est parti. Mmh. Donc le transfert se fait vraiment sans douleur. Et voilà, donc on n'a pas pu énormément jouer depuis vendredi, mais on a pu continuer notre sauvegarde, continuer un petit peu à explorer la région de la démo parce qu'on n'avait pas tout fait.
Ah non, après la région de la démo, tu peux la poncer aussi. Hein.
Ah, tu peux passer du temps dessus. Hein,
ouais.
Et le jeu s'ouvre à la fin de la démo, quand tu atteins l'objectif final de cette démo. L'histoire continue et il te dit bon ben voilà, il va falloir donc continuer à libérer le continent. Deux options s'offrent à toi. Tu peux aller dans cette région parce qu'il se passe ça, ou alors tu peux aller dans cette région parce que tu peux choper d'autres alliés. Donc tu peux vraiment, même la quête principale a des embranchements qui font que tu fais des choix qui vont avoir des conséquences. C'est vraiment agréable à jouer, quoi.
Oui, bah après c'est malheureusement un jeu qu'on a encore envie de faire, donc.
Alors c'est.
Donc voilà.
C'est un jeu, il y a les tests qui sont sortis, hein, on va pouvoir faire une revue de test tout à l'heure, mais le truc à retenir, c'est que c'est pas un jeu aussi long qu'il en a l'air.
D'accord.
Ok. On est plutôt sur un jeu qui table sur du 40-45 heures.
Oui, ça va, quoi.
Ce qui est raisonnable, hein, mais ben, on sort de 100 heures de Like a Dragon... Final Fantasy VII Rebirth fait pas loin de 70 aussi, d'après ce que j'ai compris.
Mais après, j'ai l'impression quand même que c'est un jeu qui fait 45 heures.
Personnage fait 85 heures, ouais.
Tu peux y passer plus de temps, je pense.
Je pense que si tu fais tout, ouais.
Si tu fais vraiment les explorations, les machins, si tu te balades.
Tout à fait, tout à fait. Non, tu as complètement raison, ouais. Voilà, donc on va continuer cette petite balade sur Unicorn Overlord, mais pour les amateurs de stratégie, ça paraît vraiment incontournable.
Oui, tout à fait.
D'autres trucs qu'on a testé cette semaine rapidement, ce sont des démos Dragon's Dogma 2. Alors c'est pas.
Mais j'ai pas testé moi.
T'as pas testé, mais je te montrerai. Dragon's Dogma 2, c'est une démo, c'est même pas vraiment une démo. Ils ont fait une présentation en fait. Capcom a fait un stream l'autre soir. Il était minuit, moi je dormais, hein, mais il y en a qui ont regardé.
Ah ouais, on l'a pas vu.
Ah non, c'est beaucoup trop tard, Capcom. Mais voilà, ils ont fait une présentation de Dragon's Dogma 2 en particulier. Et à la fin de cette présentation, ils ont dit bon, bah voilà, par contre, on a sorti une démo. C'est dispo sur console et sur PC. Cette démo, c'est le créateur de personnages du jeu.
Oui, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Hein.
Ce n'est que le créateur de personnages du jeu. Il n'y a rien de plus. Tu ne vas pas pouvoir jouer à Dragon's Dogma 2. Tu peux juste créer un personnage.
Après, c'est pas plus mal de le sortir à l'avance parce que ça prend tellement de temps de créer un personnage.
Parce que l'éditeur de personnages de Dragon's Dogma 2, je crois que c'est un des éditeurs de personnages les plus fous que j'ai vus de ma petite carrière de joueur de jeux vidéo. c'est assez dingue ce qu'ils font et les résultats sont vraiment cool.
D'accord.
Mais effectivement, si tu veux faire ton personnage comme tu veux, c'est une heure, deux heures de création de personnage.
Oui, ça vaut le coup de le sortir à l'avance parce que comme ça, au moins, une fois que le jeu sort, tu perds pas deux heures à faire ton personnage alors que tu as envie de jouer au jeu. Quoi.
Le personnage que tu as créé dans cette démo, tu peux l'importer dans le jeu final.
Mais c'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça vraiment pas bête parce que moi, c'est ça qui me fait chier. Quand il y a des créateurs de personnages qui sont super complets comme ça, d'un côté... T'as envie de créer ton personnage comme tu veux, etc., d'y passer du temps. Et puis, d'un autre côté, le jeu, il vient de sortir. T'as envie de voir le jeu. Et moi, j'ai tendance à dire, bon, allez, c'est bon, je bâcle un peu le personnage pour jouer au jeu.
Ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que certains jeux font, c'est au diable le réalisme, te laisser la possibilité de changer l'apparence de ton personnage après que le jeu ait commencé, tu vois.
Ouais.
C'est, voilà, tu fais ton personnage un petit peu vite parce que t'es impatient de commencer le jeu, tu fais ton jeu, et une fois que t'es bien dans l'aventure, il fait, bon, maintenant, je vais m'installer, je vais vraiment faire mon personnage avec la gueule que je veux.
Et ça, c'est pas évident dans tous les jeux.
Ils le font pas, parce que c'est pas réaliste, tu vois. C'est...
Ouais, on s'en fout que ce soit pas réaliste. Mais de même... toute façon, tu joues à un elfe, c'est pas réaliste non plus. Hein.
Non, tout à fait. Mais si tu prends un jeu, un exemple, ça va être... Il y a pas mal de MMO qui ont ce modèle-là, mais World of Warcraft ou Final Fantasy XIV, tu
peux modifier.
Tu peux modifier parce que tu as un coiffeur ou un esthéticien, machin.
C'est ça.
Et donc tu vas y aller, tu vas pouvoir changer la coiffure, le maquillage, les
bijoux. Oui, après tu peux pas changer de race, de machin.
Voilà, si tu veux
changer. Tu peux pas aller trop loin non plus.
Changer de sexe, de race.
Ça c'est payant.
Morphologie de ton personnage, des trucs comme ça, généralement c'est payant. Dans les MMO c'est payant. Dans la plupart des jeux ils te laissent pas le faire non plus, alors que bon.
Mais dans Baldur par exemple, qui avait.
Dans Baldur ils l'ont sorti plus tard, avec un patch, ils ont rajouté un miroir magique qui te permet de recréer ton personnage.
Ah voilà, parce que pas là aussi c'était un créateur qui était assez complexe.
Pas changer de race.
Ouais.
Et dans Baldur c'est justifiable parce que ton choix de race a des implications scénaristiques.
Oui.
Hein, donc là c'est compliqué à mi-chemin de dire ah non mais je suis plus un elfe, je suis un machin.
Ouais.
Mais voilà, tu peux changer bien l'apparence de ton personnage. Dans Dragon's Dogma 2 c'est important parce que on a un créateur de personnage particulièrement pointu qui te permet de passer des heures dessus. Et au début du jeu ils te font créer ton personnage et ton pion. C'est quelqu'un qui va t'accompagner avec toi, qui va avoir un rôle assez central dans ton aventure. Donc, non seulement la création de personnages est longue.
Mais en plus, t'en crées deux, quoi.
Mais en plus, t'en fais deux. Donc, il y a vraiment moyen de passer du temps. Il y a moyen, pour ceux que ça fait chier, il y a moyen d'aller vite aussi. Hein. Il y a des personnages par défaut, machin.
Oui, il y a des trucs pré-créés, comme d'habitude.
Pré-tirés, pré-créés, et ils ont une très bonne tête. Hein. Il n'y a aucun problème d'utiliser ça. Mais si tu aimes bien peaufiner un petit peu, et comme dit, c'est un créateur de personnages qui est extrêmement, extrêmement précis, hein, avec 50 000 paramètres. Voilà, si tu arrives à la section customisation des yeux, t'as 12 sliders pour les yeux avec les iris, les pupilles, les machins, les formes des trucs, les formes des yeux, les cils, l'orientation, le rapprochement, les trucs comme ça. Tu peux customiser les dents.
Et oui.
T'as l'écran de customisation des dents. Donc déjà, t'as ton personnage qui fait qui montre ses dents. Et tu as toute la liste des dents. Et tu peux les cocher, les décocher. Comme si tu choisis les dents qu'il a pas, quoi.
Ah ouais, d'accord, tu peux lui enlever des dents.
Ouais, okay. Non, c'est précis à ce point-là, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Il y a deux races de personnages dans Dragon's Dogma. Il y a les humains et il y a des hommes tigres.
D'accord. Il y a que deux races.
Non, lions. C'est des hommes lions. Bref. Oui, puisque je crois que c'est Léonide que ça s'appelle, donc ça donne des lions.
Bref,
c'est ça. Il y a deux races et voilà. Donc tu fais tes personnages, tu choisis même sa classe, tu lui donnes un nom et après, il n'y a plus qu'à attendre que le jeu sorte. Hein. C'est dans pas très longtemps, c'est dans deux semaines. Mais... Voilà. Non, Dragon's Dogma 2, ça a l'air cool. Autre démo qu'on a faite cette semaine, c'est la démo de Princess Peach Showtime, dans un genre complètement différent.
Oui.
Donc là, on est sur Switch chez Nintendo. Hein. Et c'est un jeu qui sort, je sais pas la date, mais au mois de mars, hein, donc c'est dans pas longtemps non plus. Ouais. Et c'est ce jeu qui met en avant un personnage central, la princesse Peach. Ouais. Princesse Peach qui, un matin, avec son pote Toad et les autres Toads, il décide d'aller au théâtre.
Ouais.
Hein, il trouve un prospectus qui traîne par terre, ils vont au théâtre, et à peine ils arrivent, ça part en couille, il y a une vilaine sorcière qui attaque le théâtre, c'est une catastrophe, et donc il faut sauver tout le monde, et pour sauver tout le monde, tu vas rentrer dans les pièces, donc tu vas te balader dans les décors de théâtre, alors tout est en décor de théâtre, c'est rigolo, l'ambiance est pas mal, et en fonction de la pièce que c'est, la princesse Peach va pouvoir incarner un rôle différent.
Ouais.
La démo, c'est les deux premiers niveaux. Le premier niveau, tu incarnes une épéiste.
Oui.
Donc du coup, elle a un costume d'épée, elle a un sabre de... un fleuret, en fait. Hein.
Un fleuret, oui, c'est ça.
Et du coup, ça lui fait toute une série de compétences pour ce niveau-là. Tu vas pouvoir taper les ennemis avec ton épée, ils vont s'envoler. Parce que c'est pas violent.
Bah, tu les tues quand même.
Oui, mais ils sont pas éventrés en train de se vider leur sang par terre sur les planches
du
théâtre.
Non, mais tu peux imaginer qu'ils sont éventrés en train de se vider leur sang.
Après, c'est ton imagination qui travaille. Effectivement. Non, voilà. Donc, tu fais ton niveau. Il y a une série d'étoiles à trouver dans le niveau qui sont plus ou moins cachées.
Oui, après, c'est du classique.
C'est du classique.
Plateforme. Hein, voilà.
Tu vas du début à la fin du niveau, t'as des trucs cachés, comme ça à la fin il te dit un score, si t'as trouvé toutes les étoiles, la petite écharpe, combien de pièces t'as eu, machin, très bien, bravo. Niveau suivant, c'est une pièce de théâtre complètement différente avec des histoires de pâtisserie et tu as Princess Peach, pâtissière. Mmh. Et là donc t'as une série de skills complètement différentes et c'est quand tu mets côte à côte le premier niveau
c'est très différent
du deuxième niveau, c'est là que tu te rends compte que c'est un jeu qui va se baser sur la variété.
C'est ça.
Hein, qui va t'apporter des expériences complètement différentes entre les différents costumes. Le niveau où tu es pâtissière, c'est un niveau complètement sans combat. Il n'y a pas du tout de compétences de combat.
Il faut que tu fasses des gâteaux.
Tu as une série de mini-jeux où il faut faire des gâteaux, il faut décorer les gâteaux. Faut les cuire suffisamment longtemps, pas trop longtemps, pas assez. Il faut faire la cuisson parfaite. Et ensuite, tu as ton petit truc de pochage pour faire la décoration sur le gâteau, ce genre de choses. Et en fonction de tes résultats dans ces mini-jeux, tu vas gagner les mêmes étoiles que tu gagnais en tuant les gens.
Moi, je veux pas balancer, mais t'étais pas très doué en pâtisserie.
Non, en pâtisserie, j'étais à chier.
Le premier niveau, t'as fait toutes les étoiles, la pâtisserie, okay. C'était n'importe quoi.
On fait vraiment la liste de tous les trucs où je suis nul.
Ouais, genre, voilà, c'est ça, aujourd'hui.
Donc voilà, c'est très mignon. C'est un jeu qui promet pas mal de diversité. Pardon, je me suis fait mal. Ils ont montré à la fin un petit trailer où ils te montrent un petit peu tous les costumes possibles. Il y a une bonne variété, il y en a une bonne dizaine, hein, j'ai l'impression.
Ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un jeu qui est très court, du coup, parce que si tu fais 10 niveaux...
Non. Alors,
ou s'il y a plusieurs niveaux à chaque fois pour le
costume. Il y a plusieurs
niveaux
à chaque fois, parce que à chaque fois, quand, à la fin de chaque niveau, ils te faisaient le récapitulatif, on a fait le niveau épéiste 1...
Boulanger, ah d'accord. Hein, okay.
Voilà, donc tu as plusieurs. Les costumes vont revenir sur différents
niveaux.
Voilà,
hein, d'accord.
Donc il y a quand même un petit peu plus à manger que ça. Mais tu sens bien que sur chaque costume, tu vas avoir un gameplay complètement différent. Mm. Quand tu as Peach détective, elle va faire des enquêtes, des trucs comme ça. À chaque fois, tu as des trucs différents. Il y a une Peach en costume de cosmonaute spatial, super-héros, je sais pas quoi.
Ouais.
Et tu la vois voler, tirer sur des trucs très shoot'em up.
Ouais, avec les trucs qui arrivent sur le côté, en fait, un peu comme...
Exactement. Exactement. Donc, on a vraiment du gameplay vraiment très différent en fonction des niveaux. Mm. Ça a l'air varié, ça a l'air d'être... C'est très bien réalisé, c'est charmant, c'est rigolo, c'est dans l'univers Mario habituel. Techniquement, ça rame un peu
sur la démo.
Alors que ce qu'il y a à l'écran, c'est rien de fantastique. Mm. Donc on a un petit peu un retard visuel qui... Bon, voilà, on va pas le dire à chaque fois, mais on a une Switch qui est en fin de vie. Mm. Et ça commence à se sentir sur chaque jeu qui sort. Et on a un jeu qui, de toute évidence, est extrêmement simple et s'adresse peut-être... un public plus jeune.
Plus jeune, ouais, effectivement. C'est quand même pas du niveau de du Mario qu'on a eu récemment.
On n'est pas sur du Super Mario simple. Wonder. Ouais. C'est
varié,
simple.
C'est mignon, mais c'est un gameplay qui est simple.
C'est un gameplay qui est extrêmement basique et qui est extrêmement simpliste.
Mais du coup, ça peut être super, effectivement, pour des plus jeunes.
Complètement. Complètement. Donc voilà, testez la démo avant d'acheter le jeu.
Après, moi,
voir si le jeu est pour vous.
Ouais. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y en ait pas un peu plus dans la démo. Parce
la démo
que
est courte.
La démo est courte pour le jeu où quand même il y a beaucoup de variétés. Moi, j'aurais mis un petit peu plus de choses pour tester, en fait. Mm-hmm. Bon, après, Nintendo, ils s'en foutent. Ils savent que les gens ils vont acheter leur jeu. Hein, mais c'est vrai que...
Ouais, ouais, mais la démo, c'est voilà. Ça. C'est deux niveaux, c'est 30 minutes de démo.
Voilà, c'est deux niveaux. Tu vois pas trop... Enfin, voilà.
C'est...
Tu vois pas trop ce que c'est le jeu, quoi.
En même temps, les niveaux ils s'enchaînent tellement rapidement que si tu fais une démo plus longue, voilà, bah t'as montré tous les costumes, t'as plus rien à vendre.
Non, mais un troisième,
j'ai
sais
peur
pas.
Que effectivement la durée de vie, surtout sur des joueurs confirmés, la durée de vie soit pas.
Ah
soit
oui,
pas
non,
folle,
ça doit pas être très très long.
Voilà. Et la version finale qui arrive bientôt, c'est un des derniers jeux de la Switch. Hein. Les Nintendo a pas annoncé énormément de trucs. Hein. Les autres jeux Nintendo qu'on attend sur Switch avant la fin de l'année, ça va être des remakes. Mmh. On sait qu'il y a Mario la Porte Millénaire qui arrive, on a Luigi oui. Mansion 2 qui arrive, mais ça c'est que des remakes. En jeu original, c'est vraiment un des derniers de la console. Voilà, voilà pour les jeux de la semaine. On va faire cette petite revue de test de Unicorn Overlord.
On parle pas de Yakuza quand même, on l'a terminé.
On a terminé Yakuza. Mais je me demandais... Comment on va parler de Yakuza, parce que sans spoiler, est-ce qu'on fait un épisode spoiler ou...
Bah, je sais pas, c'est quand même le meilleur jeu du monde, quoi.
C'est quand même le meilleur... Ouais, part...
voilà, après, il n'y a pas voilà. besoin de spoiler, c'est juste le meilleur jeu du
bon,
monde.
Sans
quoi.
Ouais. Alors, no spoiler, promis, il n'y aura pas de spoiler dans ce point final sur Yakuza, sur Like a Dragon Infinite Wealth. Mm-hmm. Mais on l'a effectivement terminé à 300%. Hein, on a fait beaucoup de choses.
Mais en fait, c'est un jeu qu'on n'arrive pas à quitter. Moi, là, j'ai envie qu'on continue à faire tous les trucs, tous les machins, parce que j'ai envie de rester avec Ichiban et Kiryu, quoi.
Dans cette ambiance-là.
C'est ça.
Bon, on va présenter les choses différemment. On a vu les crédits de fin de Infinite Wealth après. 98 heures au chronomètre.
Oui,
il y a moyen de le faire plus vite, hein, on a pris notre temps.
Oui, après, tu l'as platiné, non, déjà, ou pas tout à fait?
Pas tout à fait.
Il, un ou deux trucs,
il mais... nous manque un trophée qu'on n'a pas, c'est monter Ichiban au niveau 70. On est actuellement au niveau 60, donc il y a un peu de farming à faire. On y reviendra.
Et après, si tu veux faire tous les trucs que te propose le jeu, évidemment, tu peux y passer ta vie. Quoi.
Comme dans tous les Yakuza, il y a la liste d'activités que très peu de jeux te demandent de faire à 100%, mais certains Yakuza demandent.
Là, non.
non, voilà, il y a beaucoup d'activités que tu peux faire, ça c'est certain. Mais en tout cas, voilà, niveau histoire, on est arrivé au bout du truc. Hein, une excellente histoire qui arrive à bien mettre en opposition ces deux protagonistes, hein, qui sont finalement très, très différents, hein, que ça soit Ichiban d'un côté, Kiryu de l'autre.
À la fois en opposition et à la fois en...
Ouais, mais qui ont des objectifs communs, mais qui sont... voilà.
Ils se ressemblent aussi d'une certaine façon. Hein.
Ils se ressemblent un petit peu d'une certaine façon, mais c'est... Ils arrivent à avoir vraiment leur caractère très différent.
Ah, oui.
Hein. Ichiban, c'est un personnage difficile à écrire parce que c'est un personnage qui est vraiment à la limite, vraiment à la frontière de l'imbécile heureux.
De l'imbécile heureux, ouais, complètement. Mais en fait, il est incroyable.
Il est vraiment à la frontière, un tout petit peu plus, c'est un idiot.
C'était trop, ouais,
un tout
c'est
petit
ça.
Peu plus, c'est un idiot, il devient énervant. Non, là, c'est simplement, c'est un optimiste indécrottable qui peut pas comprendre, il peut pas admettre que parfois dans la vie, il va y avoir des gens qui l'aiment pas.
Ah non, ça, il peut pas.
Il peut pas avoir d'ennemis.
Non.
C'est juste des gens qui se trompent temporairement.
Il va insister jusqu'à ce qu'on l'aime bien.
Voilà, qui va insister. Et ça marche.
Ah oui.
Et ça marche. Et c'est pour ça.
Après, il est pas optimiste que pour lui, Ichiban. Il est optimiste aussi pour les autres.
Tout le jeu est basé sur une confiance aveugle.
Aveugle en l'autre, en fait, et en des gens qui ont fait des erreurs et qui...
Et qui l'ont ouvertement trahi.
Et qui va accepter quand même tels qu'ils sont et qui va pousser à se rattraper, voilà. Donc, c'est vraiment l'optimisme à l'état pur, quoi.
C'est... Ichiban, tous les gens qu'il rencontre, la plupart de ses amis vont finir par le trahir et il va pardonner. Mm. Et la plupart de ses ennemis, il va finir par les convaincre d'être, ami, ouais. d'être ses amis. Donc et tout le temps, c'est un fil conducteur sur tout le jeu. Ça. Et ça l'était déjà sur Yakuza 7.
C'est ça.
Et c'est vraiment charmant. Ça, c'est jamais énervant. Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Le personnage fonctionne bien.
Et à l'inverse, Kiryu, c'est vraiment l'opposé quoi en personnalité. Ouais.
C'est l'opposé en personnalité. Kiryu, il a toujours eu ce caractère complètement impassible.
Taciturne.
Et on avait déjà raconté l'anecdote, hein, mais la personnalité de Kiryu, c'est une personnalité qui a été imposée techniquement par la PlayStation.
Et oui, parce qu'il pouvait pas avoir d'expression sur son visage.
C'est un personnage. Les premiers Yakuza, Yakuza 1, Yakuza 2, les originaux, c'est animer le personnage principal, lui faire des animations faciales, des trucs comme ça, le faire réagir à des trucs comme ça, c'était techniquement, c'était pas possible. Donc pourquoi pas l'écrire et faire un personnage qui est tout le temps impassible.
Tout à fait.
Donc voilà, maintenant que la technologie a évolué, ils arrivent à donner un petit peu plus de profondeur à Kiryu.
Tout à fait.
Hein, Kiryu, il commence à avoir des couches, des facettes qui se révèlent.
Il est monstrueux. C'est le meilleur personnage que j'ai jamais vu, moi. Il est monstrueux.
Il a une profondeur et il a une évolution dans son arc narratif, dans ce jeu. Entre le point de départ, on va pas spoiler ce qui se passe au début comme à la fin, mais il a un point de départ et un point d'arrivée dans ce jeu. Il a un état d'esprit qui est complètement différent et qui est renseigné par toutes les expériences qu'il a eues dans ce jeu, à la fois en côtoyant Ichiban et ses amis et en faisant des rencontres, en faisant le point sur sa vie.
Il
atteint un certain âge, il y a toute une phase, ils en ont fait une mécanique de gameplay, la possibilité de se remémorer des choses, des expériences qu'il a eues et les enseignements qu'il a pu tirer des rencontres qu'il a faites au cours de toute sa vie. Et quand je dis toute sa vie, c'est de Yakuza 0 jusqu'à maintenant.
Et du coup, ça fait vraiment aussi les gens qui ont fait le jeu. Alors bon, c'est pas tous les mêmes depuis le début, mais ils ont quand même eux aussi une réflexion sur tout ce qu'ils ont fait sur Yakuza depuis le premier, quoi.
Complètement.
Donc,
Complètement.
C'est marrant de voir ça, en fait.
Et c'est une réflexion qui est assez intéressante, parce que Infinite Wealth, c'est le premier Yakuza qui est fait sans le créateur de Yakuza.
C'est vrai.
Hein, c'est la première fois qu'il y a un jeu qui sort, qui est complètement fait de A à Z par la nouvelle équipe.
Oui.
Donc pouvoir se réapproprier cette histoire, c'était pas évident, et ils ont réussi à le faire.
Ah, c'est vraiment très réussi, ouais.
C'est vraiment très réussi, et ça explore des thèmes sur qui sont intéressants. Certains qui sont plus abordés par Ichiban, d'autres qui sont plus abordés par Kiryu, mais des thèmes de la famille, à la fois ta famille de sang et la famille que tu as choisie, les gens avec qui tu as les gens que tu as choisi de t'entourer.
Oui, bien sûr.
Et ta relation avec ces gens-là, c'est des thèmes qui sont importants. Il y a des thèmes qui sont abordés sur le deuil, sur la mortalité, sur comment tu choisis de mener ta vie, comment tu choisis d'utiliser le temps qui te reste dans ta vie.
Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal de thèmes justement assez féministes dans ce jeu.
Complètement aussi, ouais.
D'habitude, quand même, dans Yakuza, bon, après, il reste, il reste quand même, comme on dit, il y a des jobs qui sont réservés aux femmes et d'autres aux hommes. Il reste des reliques.
On dit pas qu'il y a zéro faux pas.
Il n'y a pas zéro faux pas, mais il y a une réflexion là-dessus, sur la femme, sur comment ils perçoivent la femme, etc. Et sur l'évolution que ça a eu aussi au fil des jeux. Parce qu'au début, sur les Yakuza et même sur les Yakuza encore récents, les filles, c'était vraiment les pauvres victimes qu'il fallait sauver.
Yakuza
et là, ça a vraiment changé, quoi.
Yakuza jusqu'à Like a Dragon, les personnages féminins... 99% du temps, c'était soit des personnages à sauver, soit des travailleuses du sexe.
C'est ça.
C'était les deux rôles que pouvait avoir une femme, et c'est tout.
Ouais.
Après, ils ont commencé à changer ça, et avoir des personnages qui avaient des rôles un petit peu plus importants. Les personnages de ton groupe sont quand même...
Non, puis il y a aussi la relation amoureuse. Hein, y a une relation... Il y a Ichiban, bon, c'est pas trop un spoil, on a déjà parlé.
C'est pas un spoiler,
hein.
Non, mais...
Il y a Ichiban qui a une relation amoureuse avec une fille du groupe et qui a du mal à exprimer ses... ça se passe pas bien pour lui pour exprimer ses sentiments, et d'ailleurs, que ce soit Kiryu ou Ichiban, c'est deux personnages qui sont pas hyper à l'aise avec les femmes, en fait.
Ouais.
Et donc, il y a tout qui tourne autour de ça. Comment, avec l'évolution de la société, etc., comment tu, t'approches une femme finalement. Voilà, c'est...
Tout ça,
c'est intéressant.
Tout ça vu au travers du prisme de la société japonaise.
Bien sûr. Puis tu as aussi les différences entre justement la société japonaise et la société américaine, vu que ça se passe à Hawaï. Donc il y a aussi beaucoup de thèmes qui tournent autour de... qui tourne autour des différences entre le Japon et les États-Unis, que ce soit au niveau des femmes, au niveau de la criminalité, etc. Voilà.
Ouais. Pardon, je m'étouffe.
Ben est...
je suis en train de mourir, c'était le dernier épisode de Ben qui est mort.
J'ai appelé les pompiers, je suis désolée.
Merci de nous avoir suivis pendant 6 ans. Adieu. Non, ça va. Ouais. Donc, non, et très, très agréablement surpris de cet univers qu'ils ont réussi à construire. Et qui fait que, voilà, comme tu l'as dit, non, on n'a pas envie d'éteindre la console.
Non.
Première chose qu'on a faite, après avoir terminé le jeu, c'est de le, c'est
relance,
de le relancer.
De continuer à faire
de continuer
des trucs.
Les derniers trucs qu'on n'a pas fait, tu vois, il y a un rallye photo, il faut prendre en photo des trucs, des
enseignes. Oui, non, en fait, là, je suis désolée, hein, mais là, on cherche des excuses pour continuer à jouer, clairement. Alors que d'habitude, quand on... Il y a des jeux où on finit le jeu, on dit bon, allez, ok, c'est fini, on passe à autre chose, quoi, tu vois.
Ouais.
Là, c'est vraiment bon, attends.
Surtout que passer à autre chose veut dire on a une pile de trucs à jouer.
Oui, il y a autre chose à jouer, mais on a envie de rester sur.
Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a déroulé les crédits de Yakuza de Like a Dragon Infinite Wells, on s'est dit bon, Final Fantasy, non, on va rester sur.
on va continuer.
Et du coup, on a l'occasion de vous parler d'un truc parce qu'on a craché dessus à la sortie et je le fais toujours, hein, les DLC, les trucs payants. Qui sont disponibles dès la sortie du jeu avec du contenu dedans, c'est toujours un petit peu pénible. Là, c'est vrai que Infinite Wells, il fallait acheter l'édition, je sais plus, Deluxe ou Ultimate. Bref, il y avait 3 paliers et au palier 2 et 3, tu avais un pack de contenu en plus avec le New Game Plus,
oui.
La possibilité de recommencer le jeu en gardant ton groupe, tes personnages, tes compétences et tout.
Oui.
Donc ça, c'est réservé à ceux qui ont la grosse édition. Et aussi, un donjon supplémentaire.
Oui.
Donjon supplémentaire, ça, c'est uniquement dans les grosses éditions du jeu. Et je trouve ça dommage de limiter ça. Ce donjon supplémentaire, c'est un donjon qui est accessible après la fin du jeu. On remercie à nouveau Sega pour l'exemplaire du jeu qu'ils nous ont fourni, qui contenait ce...
Donc nous, on a le donjon, on a New Game Plus aussi ou pas ?
On a tout.
On a tout.
Et donc du coup, on a fait ce donjon supplémentaire, en tout cas on est dedans. Et on va pouvoir vous dire en exclusivité si ça vaut le coup.
C'est un donjon.
Oui et non. Alors, des donjons, si vous avez fait le jeu, vous en avez fait déjà deux gros, hein, le donjon de Yokohama et le donjon d'Hawaï. C'est globalement la même structure, c'est-à-dire c'est une succession d'étages générés aléatoirement, avec des gens à sauver, avec des coffres à trouver, des machins, et à la fin de la section, tu vas avoir un boss. Dit comme ça, ça donne pas super envie. C'est un donjon qui est quand même un peu plus étoffé que ceux du jeu normal.
D'accord.
Ils ont rajouté des trucs en plus. La structure n'est pas exactement la même. Les boss en fin de section, c'est des sections de 5 étages et pas des sections de 10. Ouais. Donc 5 sections de 5 étages. Et les boss à la fin sont un petit peu plus intéressants que ceux qu'il y avait sur les donjons du jeu principal. C'est des boss un petit peu plus cool. Et il y a aussi un petit peu d'histoire qui va avec.
Oui, c'est vrai. Alors, entre chaque
section.
Ouais, il y a. Au lieu de te laisser faire ce que tu veux, tu as une histoire en fait avec tout le groupe.
Ouais. Alors c'est des histoires un petit peu très légères, un petit peu bêtes.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est une histoire qui a pas sa place dans la vraie histoire parce que après les crédits de fin, voilà, il y a aucune explication pour que tous ces personnages soient tous ensemble
à
Hawaï.
Oui, parce que voilà, après les crédits de fin, ils sont tous ensemble en fait.
Et ouais.
Du coup, quand tu fais des combats et quand tu fais le donjon, tu gagnes de l'XP et de l'amitié pour tout le monde.
Voilà.
Tous les 8, tous les 10. 10
voilà, voilà. 10 tu as vraiment un super groupe avec 10 personnages.
Et tu peux avoir Kiryu et Ichiban dans ton groupe.
Voilà. Et ça, scénaristiquement, ça n'a pas d'explication.
Ça a aucun sens.
Mais c'est pas grave. C'est vraiment une histoire entre parenthèses. Et tu as ce donjon où tu vas faire les trucs. Et entre chaque section, tu as une petite histoire. Alors, c'est des histoires rigolotes. Hein. Ils vont tous, voilà, on a tué un boss, c'est trop bien. On va fêter ça, on va aller tous ensemble au resto. Et du coup, il y a des dialogues vraiment marrants. Il y a des scènes vraiment sympas qui sont en plus, en bonus. Mais voilà, ce DLC, c'est ça, c'est pas plus que ça.
Mais c'est vrai que j'aime bien le... C'est un DLC qui va vraiment s'appuyer sur justement les liens d'amitié et les personnalités de chaque personnage,
ouais,
en fait.
Ouais, complètement.
Et c'est rigolo, quoi.
Voilà. Bon. Mais du coup, moi, c'est du contenu qui est bienvenu parce que voilà, ça permet de passer un petit peu plus de temps dans cet univers-là.
Ah, nous, on est contents.
Ça me permet, moi, de farmer les derniers niveaux parce qu'il faut que je monte mon Ichiba niveau 70 pour avoir le platine. C'est le seul truc qui me manque pour le platine.
Et ça te permet de farmer.
Et voilà, je vais pouvoir faire ça.
Après, c'est sûr que je ne sais pas combien ça coûte en plus que le jeu normal, mais...
Alors, ils le vendent séparément aussi, je n'ai pas regardé les prix.
C'est peut-être trop cher pour ce que c'est aussi, je ne sais pas.
Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, je vais voir si j'arrive à avoir un prix. Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu qui est verrouillé. C'est 20 balles.
Ouais, je trouve que ça fait beaucoup quand même.
C'est 20 balles, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais il y a pas mal de contenu. Alors ça, c'est Sega hein, qui le fait beaucoup en ce moment, mais du contenu verrouillé dans des DLC. Parce qu'il n'y avait pas que ça aussi, il y avait le bonus de précommande. Pour Infinite Wells, il fallait avoir précommandé le jeu pour avoir accès à deux classes de personnages, la classe de footballeur américain pour les hommes et tennis pour les femmes.
Ah, c'est con.
Voilà, si tu les as pas, c'est dommage parce que c'est des classes qui sont sympas.
Ah mais oui, attends, pour de la précommande.
Voilà, tu peux même pas, aujourd'hui tu ne peux pas acheter ces classes, il fallait avoir précommandé le jeu.
Oh non, c'est nul ça.
C'est nul ça
Sega, ça va pas du tout. Hein.
Et c'est
en plus c'est des classes, ouais, c'est des classes qui sont super cool quoi.
Non, tennis pour les filles c'est surpuissant, ouais. Hein. Ouais, moi j'utilise que ça quoi. C'est dommage.
Ouais, c'est dommage.
Sega en ce moment, c'est un petit peu ça. On en reparle un petit peu plus tard dans l'épisode, on aura un autre exemple, mais c'est un petit peu décevant.
Ouais.
Allez, on va avancer un petit peu quand même, la revue de test pour Unicorn Overlord. Oui. Donc c'est la grosse sortie de cette semaine et c'est plutôt un succès. Unicorn Overlord, au moment de l'enregistrement de cet épisode, a un métacritique de 88.
Pas mal.
Qui est pas mal du tout. Zubikan pour CGM a donné un 9 sur 10 avec une infinité de permutations de personnages, un vaste casting et une histoire bien réalisée. Unicorn Overlord excelle dans une expérience de jeu de rôle tactique à la hauteur des grands, tout en continuant à élargir le portfolio de jeux de Vanillaware. Unicorn Overlord combine l'esthétique exceptionnelle de Vanillaware dans une expérience de RPG tactique qui est en bonne voie pour devenir un classique moderne. Voilà, donc plutôt positif. Mm-hmm. Eric Zalewski pour IGN US a mis un 9 sur 10 également. Le système de combat tactique est unique et complexe, tout en étant facile à comprendre, mêlant habilement les mécaniques empruntées à bon nombre de ses pairs avec de nouvelles additions intelligentes. Le terrain intéressant à travers le continent de Favrit rend chaque combat unique, avec certains des meilleurs gimmicks de cartes que j'ai vu dans n'importe quel RPG tactique. Étant donné que la campagne est racontée à travers les yeux d'un casting diversifié et créatif, son histoire fantastique est élevée d'une manière que ne réussirait pas un style de narration plus traditionnel.
Ok.
Voilà. Chez Kotaku, Willarrow, Kotaku ne met pas de notes, mais ils sont plutôt positifs également. Hein. Ce jeu n'essaye pas d'être un chef-d'œuvre narratif, il cherche à être une merveille de mécanique et il réussit amplement dans ce dernier domaine. Les systèmes tactiques infiniment inventifs et incroyablement bien conçus, présents dans Unicorn Overlord, en font un défi passionnant à relever. Ce n'est pas seulement un jeu auquel les fans de longue date de Vanillaware devraient prêter attention, c'est un jeu pour ceux qui veulent jouer au nouveau grand RPG tactique. Et enfin, pour RPG fan, Joshua Lindquist a mis 92 sur 100. J'arrive pas à croire à quel point j'aime Unicorn Overlord, mais ce n'est pas un jeu que tout le monde appréciera. Même avec des options de difficulté accessibles, il y a encore beaucoup de systèmes à gérer. Si vous aimez Fire Emblem, assurez-vous de donner une chance à Unicorn Overlord. Essayez la démo. Personnellement, je crois que c'est l'un des meilleurs jeux de stratégie sortis depuis une génération.
D'accord.
Voilà. Donc vraiment très positif sur...
Parce que Fire Emblem était moins complexe quand même, non ?
Fire Emblem est très complexe aussi.
Ouais.
Fire Emblem est très complexe, Fire Emblem est complètement tour par tour, il n'y a pas de côté temps réel, c'est vraiment basé sur des cases, c'est de la stratégie tactique mais différente.
C'est un peu différent.
Fire Emblem...
Moi je suis plus attiré par Unicorn Overlord que Fire Emblem.
Non, le point commun que ça va avoir avec Fire Emblem, c'est l'univers fantastique
qui est
assez similaire, et le casting de personnages qui est très très vaste.
Ouais.
Dans Fire Emblem aussi, tu as beaucoup, beaucoup de personnages, donc c'est un peu... Il y a un peu cette vibe-là, effectivement. Allez, on passe à l'actu. On va commencer par ça, malheureusement. Le mangaka légendaire Akira Toriyama nous a quittés le 1er mars. Akira Toriyama avait 68 ans. C'est, bon, vous le connaissez, hein, Akira Toriyama, c'est le créateur, entre autres, de Dragon Ball.
Oui.
Il est responsable pour tout un tas de mangas, mais c'est effectivement pour Dragon Ball qu'il est le plus connu. Voilà. C'est dans l'univers du jeu vidéo, il est aussi très connu. Il a participé à la création, au design de plein de jeux vidéo. Alors, pas seulement des jeux vidéo qui sont les adaptations de ses œuvres à lui, hein, mais il a également été design de personnages pour des jeux comme Dragon Quest, pour Chrono Trigger, comme Blue Dragon. Il y avait le jeu de baston de Tobal numéro 1 qui était un petit peu bizarre. Donc, ouais, il a toujours été omniprésent. Hein. Il y a Sandland qui est pas sorti, qui sort dans quelques semaines chez Bandai Namco.
Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui a bossé dessus. Hein.
Le manga Sandland, c'est un manga d'Akira Toriyama.
D'accord.
Donc c'est une adaptation d'un manga à lui. Donc vraiment, côté jeu vidéo, il est vraiment omniprésent. Dragon Quest, c'est lui qui est à l'origine de tous ces designs. Hein, je veux dire, il y a une image qui est assez légendaire là et qui est ressortie ces derniers jours avec sa mort. C'est le créateur de Dragon Quest qui envoie une lettre à Akira Toriyama en disant « Oui, on aimerait bien, machin. » Et on aimerait bien travailler ensemble sur le design et tout. Et le créateur de Dragon Quest avait dessiné un slime, parce que un des ennemis classiques de Dragon Quest, c'est le slime. Et il avait dessiné une espèce de caca dégueulasse. C'est un truc nul, tu vois, vraiment un gribouillis. Et Akira Toriyama qui répond avec ce design légendaire du slime bleu en goutte d'eau avec les grandes yeux, là. Et voilà. Non, c'est... Il va laisser un grand vide. Ça, c'est évident. Et voilà. Alors, on va pas faire le tour de tous les hommages qu'il y a eu pour Akira Toriyama, à la fois dans le milieu du manga et de l'animation japonaise, mais dans les jeux vidéo, des trucs comme ça. Il y a des veillées qui sont organisées dans des jeux comme Final Fantasy XIV ou des trucs comme ça.
Bien sûr.
Bon. C'est un gros événement. Il était très très jeune. C'est un décès qui est très brutal. Hein. Personne s'y attendait. Il était en plein travail sur ses différentes œuvres. Hein. Il travaillait toujours sur Dragon Ball. Il laisse beaucoup de choses inachevées derrière lui.
Ouais.
C'est assez tragique. Donc, voilà. Et on rappelle que Chrono Trigger est quand même un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc ça me fait...
Ouais, après, moi, ce qui me fait quelque chose surtout, c'est que Dragon Ball, pour nous, c'est notre enfance, en fait. C'est vraiment les...
Mais pas que notre enfance. Je veux dire, on a 40 balais passés. Dragon Ball est toujours d'actualité, tu vois.
Oui, oui, oui. Non, je veux dire, c'est toute notre vie. Mais ça a démarré sur notre enfance et les dessins animés qu'on avait à la télé dans les années 80.
Et en France, on avait une chance infinie d'avoir ces dessins animés-là à peu près en même temps que le Japon. On est un des premiers pays où il y a eu une exportation de la culture manga aussitôt. Quoi.
Et du coup, ça fait quelque chose parce que voilà, c'est toute notre vie. Quoi. C'est vraiment... il nous a suivis toute notre vie, ce monsieur. Donc, voilà.
Ouais, non, moi, je regarde Dragon Ball depuis aussi loin que je me rappelle. Quoi. C'est difficile. Voilà, fallait en parler. News, toujours des news sérieuses. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Suite de l'épisode du procès entre Nintendo et l'émulateur Switch Yuzu.
Ah oui, c'est vrai.
Suite et fin, hein, parce qu'on a eu la conclusion juste après que l'épisode sorte cette semaine. Donc Nintendo avait attaqué en justice Tropical Haze, la société qui édite l'éditeur de jeux Switch Yuzu. Yuzu, on rappelle, résumé des épisodes précédents, Yuzu avait pris un avocat pour se défendre. Et visiblement, les conseils de l'avocat, ça a été « Lol, non, vous êtes mort ». Et donc, il y a un accord qui a été trouvé. Yuzu a accepté de payer 2,4 millions de dollars en dommages et intérêts à Nintendo et de cesser toutes leurs opérations et tout développement et distribution de leurs émulateurs. Voilà, donc Yuzu n'existe plus, Nintendo est un petit peu plus riche, Tropical Haze a cessé toute activité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Yuzu, l'émulateur, donc le développement de Yuzu est arrêté.
Ouais.
Et Yuzu n'est plus disponible sur son site officiel. Après, on est sur Internet. si on cherche quelque chose, on le trouve. Mais le développement est arrêté.
Donc, Yuzu, c'est un émulateur qui émulait uniquement la Switch. Hein.
Uniquement la Switch. C'est bien ça. Mais le même développeur était également responsable de Citra, qui était l'émulateur de jeux 3DS.
Voilà, ça, ça reste.
Non. Non,
pourquoi ?
Parce que Nintendo a pris possession de l'ensemble des serveurs et voilà, tout ce que Tropicalize produisait, c'est terminé. Donc la cible, c'était Yuzu, dommage collatéral, c'est Citra qui n'existe non plus.
Bon, après, il fallait pas faire chez Nintendo.
Alors, pourquoi Yuzu et pourquoi pas les autres émulateurs ? Pourquoi, voilà ? Plusieurs choses. Les arguments de Nintendo, c'était que... Yuzu en particulier était un émulateur qui n'avait, même si c'est pas un même si en lui-même l'émulateur n'est pas illégal, il n'avait absolument aucune autre fonctionnalité que des activités illégales.
C'est vrai.
La seule façon de le mettre, de l'utiliser et de le faire fonctionner, c'est de récupérer des clés de cryptage que t'es pas censé récupérer, donc illégalement, et les mettre dans le truc. Il y avait pas d'option légale d'utiliser Yuzu, tu peux pas dire. Et c'est pas comme un émulateur d'une vieille console qui dit voilà, on émule des trucs qui ne sont plus en vente, la console n'est plus en vente, les jeux sont plus en vente, il y a plus personne qui fait d'argent avec ces jeux depuis longtemps. C'était clairement pas le cas. Deuxième gros problème. Et ça a vraiment été la... Quand ils l'ont fait, tout le monde a dit « Là, vous dépassez une limite et vous allez avoir des emmerdes. » C'est quand ils ont lancé leur Patreon. Quand ils ont commencé à faire de l'argent sur Yuzu. Donc, il y avait une branche Patreon de Yuzu. Si tu payais leur Patreon, tu pouvais avoir une version de Yuzu avec, plus en avance, avec les derniers développements, les dernières versions bêta et des trucs comme ça.
D'accord.
Et également des guides spécifiques qui te disaient comment pirater les jeux, comment faire les trucs, comment... Voilà.
Ouais, donc là, ça allait trop. Là, c'est trop, effectivement.
Voilà. Donc, c'est vraiment...
Ok.
C'est... Quand tu fais des trucs comme ça, comme les émulateurs qui sont vraiment à la limite de la légalité, il faut faire attention à ne pas basculer du mauvais côté. Et là, ils ont pas raté.
Là, Yuzu, tu t'es manqué. Hein.
Voilà. Donc, on en est là. Hein. C'est immédiatement la fin de l'histoire. Alors, c'est une affaire qui ne va pas aller devant le tribunal. Donc, il ne va pas y avoir de précédent légal, toujours.
Oui, mais le précédent existe. Hein.
Mais ça va calmer les gens. Voilà. Ça va servir d'exemple. Mm-hmm. Hein, quand tu fais chier Nintendo, ça coûte 2,4 millions.
Et quand tu fais chier n'importe qui, hein, je veux dire.
N'importe qui, oui, mais après Nintendo.
Si tu fais un émulateur de la PS5, ça marche pas non plus, mm-hmm. Hein, je pense. Ça, c'est plus compliqué, mais.
Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, Nintendo, ils sont connus pour être très. Très nerveux sur. De toute façon, Nintendo. Nintendo au Japon, c'est des développeurs de jeux vidéo. L'entreprise qu'ils appellent Nintendo of America, c'est des avocats. C'est que des avocats. Mm-hmm. C'est vraiment que ça. C'est vraiment protection légale de la marque.
Je comprends. Hein, y a besoin. C'est dans leur intérêt. Et puis c'est dans un intérêt global aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà.
On a eu cette semaine également un Xbox Partner Preview Showcase. Donc, un stream de Xbox. Si, tu l'as regardé.
Aucun souvenir. Non, mais oui, je l'ai regardé.
Tu étais là, t'étais réveillée.
J'étais réveillée, ouais, j'ai tout vu, je me rappelle. Hein.
Ah ouais, non, c'était une heure normale, c'était genre à 19h, quoi.
Ouais, j'ai tout vu, mais je me rappelle de rien.
Ok.
Je sais qu'il n'y a pas eu le machin que tout le monde attendait, là.
Ah, tout le monde veut du Silksong, c'est pas encore le moment, mais ça va venir. Oh. Mais il y avait pas mal de choses. Il y avait 2-3 trucs sympas. Donc, c'était un showcase qui montrait un petit peu des jeux faits par des partenaires de Microsoft. Hein. Mmh. C'est pas des jeux Xbox même, mais c'est des trucs qui, la plupart, sortent sur...
Sur le Game Pass, ouais.
Alors... Il y en a beaucoup qui sortent sur le Game Pass, pas tous.
Pas tous.
Et la plupart sortent sur toutes les plateformes. C'est pas que des exclusivités Xbox. Hein.
D'accord.
Voilà. Mais bon, c'est des partenaires commerciaux de Xbox, donc c'est eux qui montraient le truc. Le premier jeu qu'ils ont montré, c'est un truc qui s'appelle Unknown 9 Awakening. C'est Bandai Namco qui édite un jeu développé par Reflector. C'est difficile de dire ce que c'est comme jeu. Ça sort à l'été 2024. Tu as l'air de posséder des gens, donc tu passes d'une personne à une autre en les possédant les uns après les autres. Il y a des vibes très Assassin's Creed sur le gameplay, sur la façon de jouer, sur sur comment c'est présenté. Maintenant, qu'est-ce que ça va être, c'est difficile à dire, mais ça sort bientôt.
Peut-être.
Non, ça sort cet été, c'est sûr. Hein, mais a priori, pas sur le Game Pass, en tout cas, c'est pas annoncé. Slate of Hand, également un nouveau jeu qui a été montré. Ça arrive sur le Game Pass. Ça a l'air d'être un mélange de détective et de sorcellerie. Ça a l'air d'être un jeu de furtivité où tu joues. Alors je sais pas si c'est une sorcière ou un truc comme ça, mais
c'est une sorcière.
Elle a des cartes qu'elle utilise.
C'est une
pour
sorcière.
Relancer
elle
ses
parle de son convent, donc.
Ouais, tout à fait. Donc elle utilise la furtivité et la magie pour s'infiltrer sur des trucs. Donc tu utilises des cartes pour faire des nuages de fumée où tu vas disparaître, ou des sorts ou des machins, des trucs pour entraver tes ennemis.
Ouais, après on voyait pas trop.
On
n'a
pas vu le gameplay. Hein, c'est cinématique. Hein, c'était complètement cinématique. Voilà, on n'a pas vu le gameplay.
J'ai pas trop d'idée de ce que va être le jeu, quoi.
Mais l'ambiance a l'air cool.
Oui.
L'ambiance a l'air cool et ça arrive sur le Game Pass. Game Pass également pour The Alters. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être 50 jeux en un, c'était très bizarre. Ça se passe sur une planète visiblement hostile, où tu es dans...
Ah oui !
Tu es dans une...
Ah oui, c'est le jeu où il m'avait piqué mon idée,
ils sont dans une station spatiale qui est une roue géante qui a l'air de progresser sur une planète.
Oui.
Et le truc, c'est qu'il faut rester à l'abri du soleil.
Oui.
C'est-à-dire que tu fais avancer ta roue et pour rester dans l'ombre, parce que si jamais tu es le soleil est trop violent, et voilà. Donc il faut toujours progresser. Et pour ça, tu fais de l'exploration à l'extérieur de la station et tu fais de l'aménagement à l'intérieur du truc. Mais il y a trop de trucs à faire, donc il faut recruter des gens pour t'aider. Et recruter des gens pour t'aider, comment tu fais ? Tu as une machine et tu utilises une substance que tu trouves sur cette planète pour faire des clones de toi-même.
C'est ça.
Alors c'est pas des clones exactement de toi-même, c'est des versions de toi-même qui ont fait des choix différents à un certain point de ta vie. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé ?
C'est
d'autres versions de toi-même. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais pas fait ce choix-là quand j'étais petit, quand j'étais ado, ma vie adulte ? J'ai accepté ce boulot si je l'avais pas accepté. J'ai déménagé à cette époque-là. J'aurais pu ne pas le faire. J'ai quitté ma compagne. J'aurais pu ne pas le faire. Tu vois ? Et donc, ça fait une multitude de versions de toi-même. Qui ont des caractères différents, qui ont un passif différent. Et donc, toutes ces versions de ce personnage qui s'appelle Jeanne vont cohabiter dans cette station spatiale. Ils vont s'entendre ou pas, parce qu'ils vont avoir quand même des caractères très différents en fonction de l'expérience de vie qu'ils ont eue. Mais c'est des clones de la même personne avec un caractère différent qui vont travailler ensemble. Alors, et tu vas les mettre au travail, tu vas automatiser des trucs. Il y a certains... Dans la bande-annonce, de temps en temps, il y avait des images, des plans qui rappelaient un petit peu des jeux comme Fallout Shelter, où tu avais la base, les différentes salles, chaque salle qui a son utilité, et tu assignes des Jeanne à telle salle pour les faire travailler. Ça avait l'air bizarre, mais pourquoi pas, intéressant. The Alters, ça arrive sur PC, Xbox et le Game Pass. Creatures of Eva, également. Visiblement, c'est un jeu qui est écrit par Rihanna Pratchett.
Oui.
Avec un petit peu de crafting, un petit peu de narratif, mais aussi, apparemment, au centre du jeu, il faut sauver des animaux, il faut...
Oui.
Alors, je ne sais pas si tu fais une espèce d'arche de Noé ou une collection d'animaux.
Ça m'a fait penser à... le jeu qui avait beaucoup marché, qui était très...
Palworld.
Non.
Avec plein d'animaux que tu dois capturer.
Pas du tout, plus vieux que ça.
Pokémon.
Non, pas un truc avec des trucs moches. Un jeu qui était super beau, avec des petits machins à sauver aussi, avec une fille. Le truc qui avait été fait par un studio de cinéma, là.
Ok.
Tu vois, je m'en rappelle plus.
Moi non plus.
Il y a un A dedans.
Le studio, ça doit être Annapurna, hein, si tu parlais d'un jeu studio de cinéma, mais le jeu...
Non, les mecs qui étaient sortis d'un studio et qui avaient fait un jeu vidéo en cinéma, en fait. Avec une gamine qui était dans la forêt, là.
Oui.
Que tout le monde se touchait sur ce jeu.
Elle était très jeune, quand même.
Tout le monde trouvait que le jeu était génial, il était très beau visuellement, mais après, il n'y avait pas grand-chose dedans.
Ouais, c'était sur PlayStation, et c'était...
Il y avait un A dedans.
Joli, effectivement. Et il y avait peut-être un A dans le... Bref, peu importe. parce que peu importe, parce que là c'est visiblement quand même assez différent.
Bah, je sais pas. Ouais,
c'est, penser à ça. C'est un jeu de dressage et de capture, capturage, capturation, captivité.
Capture.
Et capture.
Putain, ça c'est, va pas mieux la grammaire. Hein.
C'est un jeu de capture
capturation,
de monstres.
Capturation carrément. Quoi.
Ouais, complètement.
Mais t'es, attends, t'as capture. Toi pour toi c'était un jeu de capture de monstres.
Créatures of Eva.
Mais carrément pas, quoi.
Alors, pas de capture pour les enfermer et faire un zoo, hein, mais pour préserver, visiblement, pour les sauver, pour préserver les
ouais,
animaux.
Ouais, mais moi, je vois...
J'ai l'impression qu'il y a un côté Pokémon, et dans le descriptif du truc, c'est un côté Pokémon, sans le côté combat, tu vas pas les emmener se battre entre elles.
Ah, moi, je le sens pas Pokémon, ce truc, hein. Je sens plutôt genre Spiritfarer, tu vois.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Avec une histoire à chaque fois, etc. Et peut-être que ça te ramène des pouvoirs, des trucs comme ça, mais... Tu vas pas les faire se battre en... enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas les sauver, tu vas pas
ouais, tu vas les sauver. Non,
tu vas pas les envoyer
non.
Condor ah, non, Power, pas. Tu vas pas les
Non. Mais le but du jeu, c'est de les attraper quand même. Pour un but gentiment et pour un but louable, mais bref, ça sort cette année et ça arrive sur le Game Pass. The Sinking City 2.
Ah oui, voilà, ça je
cool.
me rappelle.
On était contents, je pensais pas qu'il y aurait un jour une suite à ce Sinking City, surtout avec les problèmes légaux qu'ils ont eu, la bataille entre les développeurs oui. et l'éditeur pour récupérer le jeu, la licence, mais ils ont réussi à dépatouiller tout ça et ils ont réussi à développer une suite. Donc la suite de The Sinking City, ça se passe donc dans une version des années 20 des États-Unis d'Amérique, mais version Lovecraftienne.
Oui.
Avec Cthulhu un petit peu partout. Voilà. Alors, le premier Sinking City faisait un petit peu peur quand même.
Oui.
Parce que là, ils disent pour Sinking City 2 que cette fois, ils vont faire. Ils vont plutôt s'orienter sur un jeu d'horreur.
Oui. Ah non, mais oui. Non, mais attends. Alors, le premier, il faisait un petit peu peur, mais c'était.
Le premier était glauque, celui-là voilà. est full horreur.
C'est ça. Le premier était glauque. Celui-là, quand tu vois la bande-annonce, on dirait Silent Hill.
Ouais.
Clairement.
Ouais, il y avait un peu plus de...
Voilà, il y avait un peu plus de vibe vraiment horreur. Donc cool, quoi.
Ouais, ouais.
Très cool.
Sinking City 2 arrive l'année prochaine sur Xbox, PlayStation et PC. On ne sait pas encore s'il sera sur le Game Pass.
Mais si.
Non.
Bah.
Non, il n'est pas annoncé Game Pass.
Bah, je sais pas, moi. Oui, il m'a envoyé un texto, Phil Spencer.
Ah, écoute, tu demandes à Philou, mais a priori, pour l'instant hein, ça viendra peut-être plus tard. Ouais. Mais pour l'instant, pas de Game Pass. Pas de Game Pass, ou presque, pour Final Fantasy XIV.
Bah si, Game Pass.
Non.
Game Pass pour les premiers, le
voilà,
truc gratuit, c'est
exactement.
Ça. C'est pas mal déjà.
Ah oui, ils offrent des trucs gratuits, c'est cool. Ouais. Donc FF14, le MMO arrive dans sa version Xbox. Enfin, on a une vraie date de sortie, c'est le 21 mars. Donc actuellement, l'open beta est en cours, mais elle va se terminer. Vous pourrez jouer pour de vrai au 21 mars. Si vous êtes membre du Game Pass Ultimate, et uniquement Ultimate, vous allez pouvoir télécharger la version de démarrage, la Starter Edition. Si vous vous connectez entre le 21 mars et le 19 avril.
Ah oui, c'est serré quand même.
C'est serré et c'est uniquement Game Pass Ultimate.
D'accord. Ouais, ok.
Une compilation des vieux Stalkers est sortie. Ça a été annoncé et c'est sorti en même temps. Stalker Legends of the Zone. Ça comprend donc les trois jeux. Shadow of Chernobyl, Clear Sky et Call of Pripyat. Donc c'est le jeu et ses deux grosses extensions en fait.
D'accord.
Je crois que c'était des extensions, c'était des standalone, ça se jouait tout seul. Donc c'est une compilation des trois, c'est un petit peu remasterisé mais pas trop. C'est pas sur trop. Xbox et sur PlayStation. Attention, c'est des jeux qui ont vieilli.
Oui, ça, c'était un peu.
C'était rigide. Des jeux qui déjà à l'époque étaient assez bruts. Ils le sont encore plus.
Mais après, l'ambiance est sympa.
L'ambiance est top. Ça remet un petit peu dans le bain avant la sortie de Stalker 2 à la rentrée. Quoi. Mm-hmm. Pas de Game Pass, a priori, pour cette compilation, mais c'est dispo sur Xbox et sur Play. Voilà, on parlait de Sega tout à l'heure qui faisait des choix un petit peu bof d'un point de vue DLC.
Oui.
On l'a vu venir à 1000 km. L'extension de Persona 3 Reload a déjà été annoncée.
C'est ça.
On en parlait quand Persona 3 Reload est sorti. Le reproche qu'on lui faisait, c'était que c'était une version qui était incomplète. En particulier, il y a un épilogue qui scénaristiquement est assez important, qui était inclus dans la version Persona 3 FES sur PS2 et qui était absente là de cette version de Reload. Tu vois, bon, à la limite, le personnage féminin qui soit pas dedans, bon, c'est dommage. Mais il y a pas mal d'éléments de ça qu'ils ont déjà inclus dans le jeu. Par contre, ça manquait vraiment, et c'était dommage. Ça arrive, c'est un DLC payant 20€, donc on va prendre un petit peu plus de sous aux fans de... Et ça arrive très bientôt, hein, ça sort en septembre 2024.
Ouais.
Et en fait, dès demain, le pack d'extension sort dès demain, parce que c'est en 3 vagues. La première vague, c'est un pack de musique. Qui sort demain. Vous pouvez télécharger, si vous achetez le truc, vous pouvez remplacer certaines musiques du jeu, pourquoi pas. Il y a un pack de costumes qui va arriver un petit peu plus tard. Et cette extension qui s'appelle The Answer arrive en septembre 2024. Et donc ça, c'est un épilogue qui se passe après la fin du jeu. Et qui explique pas mal de points de scénario qui étaient laissés en suspens dans le jeu. Et on s'attendait à ce que ça sorte. C'est dommage que ça n'ait pas été inclus dans le jeu d'origine.
C'est assez long, du coup, pour que ça coûte 20€.
C'est assez long.
Ok.
C'est assez long. Non, c'est... Il y a à manger. Non, ça, c'est... Y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quand même quelque chose qui est très, très consistant.
Okay.
Et ça coûte 20€, mais ça sera également sur le Game Pass Ultimate.
Ah ben, ça va.
Ultimate uniquement.
Ouais, mais maintenant Ultimate est un peu obligé, non ? Le Game Pass normal, il y a plus
Game Pass, bah ça dépend. Si tu joues que sur Xbox, il y a le Game Pass normal. Si tu joues sur Xbox et PC, Ultimate c'est bien. Voilà, c'est la première fois qu'un DLC arrive sur le Game Pass, donc c'est cool. C'est plutôt cool. On a eu également un nouveau trailer de The First Berserker Kazan qui a l'air qui a l'air assez cool, voilà.
Ouais, visuellement, j'aime bien. Moi.
Ouais, non, visuellement, c'est pas mal. Également.
Après, bon, ouais. Ça va être encore un énième jeu.
C'est du Souls-like, c'est voilà, c'est.
Un énième jeu qui va pas plaire à Exerve.
Bah, oui, parce que c'est pas un jeu From Software.
Voilà.
Voilà, Tales of Kenzera Zoo également a été montré. Alors ça, c'est un Metroidvania, c'est intéressant.
Ah oui, c'était cool ça.
Ouais. Ouais, ouais. C'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Surgeon Studio. C'est le projet personnel de Aboubakar Salim. Aboubakar Salim, jusque-là, il faisait des voix de jeux vidéo. C'était la voix anglaise de Bayek dans Assassin's Creed Origins.
Ouais.
Qui fait donc, qui travaille sur ce jeu, hein. Et c'est donc un Metroidvania qui visuellement va rappeler quelque chose à mi-chemin entre le Prince of Persia, Lost Crown qu'on a eu en début d'année, et des trucs comme Ori. Et sur l'inspiration, sur le contexte, sur l'ambiance, c'est très inspiré de la culture de Aboubakar Salim, qui vient avec ses croyances, sa culture. Et
il vient d'où, monsieur ?
C'est basé là-dessus. Je l'avais noté. Et je ne sais plus.
Parce qu'on va dire Afrique, mais c'est quand même assez...
Non, mais voilà, non, justement...
C'est quand même assez vague, donc...
Il est britannique.
Oui, non, mais...
ça ne nous arrange pas.
Non.
Il faudra que je vérifie, j'ai peur de dire une bêtise. Mais en tout cas, ouais. C'est...
Bon, c'est une culture africaine, mais de voilà. Quel endroit précis de l'Afrique, on ne sait pas.
Exactement. Il va apporter vraiment sa sensibilité personnelle sur ce truc-là.
Mais du coup, c'est intéressant, parce que des jeux... qui ont... Ben c'est un petit peu comme Chia qui était sorti sur la culture polynésienne.
Ouais, ouais, ouais,
là, on
ouais.
Est vraiment sur une culture africaine avec ben, pas mal de folklore, en fait, j'imagine, de la région de ce monsieur. Donc du coup, c'est assez original dans un jeu vidéo. On voit pas ça tous les jours. Donc moi, ça me donne vraiment envie de découvrir la culture de... De cet endroit
alors,
de l'Afrique.
Alors, de cet endroit, c'est une très, très, très grande partie. J'ai la réponse. Hein,
ah, très bien.
C'est les peuples bantous qui sont des peuples africains qui sont présents dans la plus grande partie de l'Afrique, hein, au sens général.
Okay.
C'est des groupes ethniques que tu retrouves un petit peu partout en Centrafrique.
Centrafrique.
Ouais, ouais. Mais c'est
Afrique centrale. Centrafrique, je crois que c'est un pays. Hein. Je dis pas une connerie.
C'est possible, hein, c'est tout à fait.
Et on n'est pas spécialiste de l'Afrique, hein, franchement.
Non, 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 mais c'est très, très.
Non, vaste, mais hein. C'est super, quoi. C'est vraiment cool d'avoir une culture comme ça qui est mise en avant dans un jeu vidéo, parce que c'est pas tous les jours.
Ouais,
donc
ouais.
Ça permet de découvrir des choses nouvelles.
Complètement. Une date de sortie pour Frostpunk 2, le City Builder en post-apocalyptique arrive sur PC uniquement le 25 juillet 2024. Il sera disponible sur le Game Pass PC. Une version console arrivera un petit peu plus tard, mais pour l'instant pas de date. Et on a vu aussi les premières images de vrai gameplay de Kunitsugami, Path of the Goddess, le nouveau jeu de Capcom, qui a l'air très bizarre. L'ambiance est super. L'ambiance est sur le folklore japonais, sur les yokai, sur les trucs comme ça. Ça a l'air vraiment marrant. C'est très coloré, visuellement, c'est super. Après, le jeu en lui-même a l'air bizarre. C'est un jeu qui alterne des phases de jour et de nuit. Jour, tu fais des préparatifs pour l'attaque qu'il va y avoir de nuit, et de nuit, donc tu te bats contre les esprits qui arrivent. Il y a un petit côté tower defense qui est assez présent, mais ça a l'air intéressant. Kunitsugami arrive sur le Game Pass quand il sortira quelque part en 2024.
Ouais, ça c'est cool. Non, après, voilà, c'est là aussi, ça va être un truc qui visuellement va être très original. Mm-hmm. Donc on espère que le gameplay va suivre et que ça va être intéressant, mais déjà rien que pour le visuel du jeu, c'est ça change quoi.
Ouais, complètement. Deviation Games.
Qui sont ces gens ?
Qui sont ces gens ? Deviation Games, c'est un nouveau studio qui avait été formé en 2020 par des anciens développeurs de chez Treyarch, connus pour Call of Duty. Ah. Donc c'est un studio qui a été fondé par Jason Blundell et Dave Anthony. C'est un studio qui a eu des temps forts et des temps un petit peu moins forts. Hein. Blundell a quitté le studio assez vite. Mais à côté de ça, ils ont eu un partenariat avec PlayStation. Leur premier jeu devait être une exclusivité PlayStation. Ça a tellement plu que le studio a immédiatement été racheté par PlayStation. Aujourd'hui, le studio a fermé.
Donc, c'est pas toujours une bonne chose d'être racheté par les gros trucs.
Voilà, donc le studio a immédiatement été fermé par PlayStation. Ça fait partie donc de tous les postes qui ont été supprimés. Okay. On en a parlé la semaine dernière.
Et donc, du coup, le jeu qu'ils devaient faire, ils le font plus.
On sait même pas, on saura jamais ce que c'était.
C'est annulé, ça existe pas.
Quoi. Ça c'est jamais arrivé.
Et du coup, les gens qui bossaient dans le studio, ils sont virés ou ils sont intégrés à d'autres
Non, c'est les gens, ils ont tous été licenciés. Ça fait partie de la vague de licenciements. Qu'il y a eu,
Putain, mais merci, quoi.
Voilà. Il y a au moins 86 personnes affectées, mais peut-être un petit peu plus.
Ça servait à quelque chose de l'acheter, ce studio, quand même. Ils auraient pu les laisser tranquilles, non ?
On voit dans le jeu vidéo, malheureusement, toute une série de mauvaises décisions. C'est très, très étrange, ce qui se passe. Les gros éditeurs et les gros développeurs sont visiblement gérés par des gens qui
ne voient pas sur le long terme, en fait, surtout.
Ouais, voilà, qui font des choix, et c'est des choix qui... On sait, si tu prends une décision dans le monde du jeu vidéo, tu vas... Les fruits arrivent 5, 6, 7, 8 ans plus tard, parce qu'il faut le temps de développer les jeux. Parfois, il faut le temps de développer deux jeux, tu vois, pour vraiment lancer un studio. Ils ne laissent pas le temps. Electronic Arts, on en parlait la semaine dernière. Electronic Arts, ils ont dit ouais, on met à 200%, on met tout dans les licences, les jeux à licence, et Star Wars et Marvel, on est à fond. Six mois plus tard, ils font non, licences, c'est à chier, on fait pas.
C'est trop cher, ouais, on va faire autrement.
Mais Electronic Arts, ils ont été cons, parce que si tu veux, Electronic Arts, c'est pour ça que je dis, c'est des boîtes qui sont gérées par des idiots, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Electronic Arts, ils ont eu un document là qui récapitule l'année passée. Ils ont dit « Ah, c'est marrant, FIFA, on a fait un nouveau jeu sans la licence FIFA. Mm-hmm. Il s'est aussi bien vendu que les précédents. Mm-hmm. Conclusion, les licences, ça ne sert à rien. »
Voilà, c'est ça.
Tu vois ?
C'est des... Ouais.
Donc on va faire pareil, on va dégager Star Wars, on va dégager Marvel, et on va faire nos propres trucs, et les gens vont savoir que nous, nos jeux, ils sont au top, et on n'a pas besoin des licences. Non, FIFA, c'est une exception. Tu peux pas appliquer ça partout. Et là, news suivante, j'enchaîne avec une fluidité exemplaire. Warner Bros. Mm-hmm. Donc ça c'est le boss de la division gaming de Warner Bros, hein, JB Barrett, qui parle aux investisseurs. Alors, je te laisse deviner ce qu'ils ont décidé. Je te remets le contexte. Warner Bros. Mm-hmm. Harry Potter, Hogwarts Legacy.
Oui.
Un carton.
Oui.
Jeu solo, un carton.
Carton.
Star Wars, Lego Star Wars, Skywalker Saga. Jeu solo, un carton. Mm. Ils en vendent des containers pleins encore aujourd'hui. Mortal Kombat 1. Jeu solo, un peu de multijoueur, mais voilà. Mm-hmm. Un carton. Mm-hmm. Suicide Squad, jeu service, un bide.
Un bide.
Qu'est-ce qu'on décide ? Tout sur les jeux service. On arrête de faire les jeux solo, c'est terminé, ça sert à rien, on fait que des jeux service à partir de maintenant.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Ben pas, je sais pas, j'ai pas de réponse pour toi, à part te dire c'est des bides.
Non, mais parce que, à la limite, la décision d'avant, tu vois, c'était, ils voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, mais c'était justifié par quelque chose. Là, pour le coup, c'est quoi qui justifie ? Rien ?
Non, si tu veux, philosophiquement, ça les fait chier que les gens achètent un jeu vidéo, ils jouent pendant 2 week-ends et après, ils n'en parlent plus jamais.
Ouais, c'est
ça. Mais c'est ça, un jeu vidéo, c'est comme ça que ça marche. Mm-hmm. Toutes les industries du divertissement marchent comme ça. Tu achètes un livre, tu le lis, c'est fini. Et mm-hmm. voilà, tu regardes un film, tu as fini de le voir, c'est tout. C'est des trucs, c'est... Essayer de faire... Ça marche pas comme ça, je suis désolé. Là, ils veulent faire... Oui, imagine un jeu Hogwarts Legacy, mais en live service, et les gens... Et je cite, les
ça,
gens...
Oui. Non, mais voilà, ce que je me suis dit, c'est ça. Ils vont essayer de faire un jeu service sur Hogwarts Legacy.
Oui, et à la limite, tu fais ton petit magicien qui habite dans cette école à la con, pourquoi pas, mais je vais encore me faire des amis avec cet épisode. Non, alors, ce qu'il dit, c'est un jeu, comme Harry Potter, voilà, où les gens pourront vivre... travailler, construire et jouer dans cet univers sur une base régulière. Ça, c'est son truc. Tu remarqueras que le mot jouer, c'est le quatrième de la liste. Hein. Ça ne les intéresse pas que tu joues aux jeux non. vidéo. Il faut juste que tu t'engages avec leur contenu, que tu sois là, que tu sois...
Après, service Harry Potter, je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise idée. Hein. Ça peut marcher. Il faut en faire un bon.
Il faut
que ce soit bon.
Ça peut marcher. Il y a aussi... Mais bon... Sur le papier, un jeu service Marvel, ça peut marcher.
Sauf que ça marche pas.
On est d'accord, Suicide Squad, c'était couillu. Hein
c'était pas le bon.
Il y avait du courage là-dessus.
Mais voilà. Harry Potter, ça peut marcher. Mais encore une fois, il faut faire
quelque
chose.
Harry Potter, ça peut marcher. Ils ont des licences qui peuvent fonctionner. Game of Thrones, ça peut fonctionner. Ça, c'est une licence qu'ils ont chez Warner. Ça peut fonctionner.
Ça peut, mais après, il faut faire quelque chose où...
Mais faire une croix...
Tu réfléchis vraiment, quoi.
Faire une croix sur les seuls jeux qui te rapportent de l'argent...
Ah, c'est dommage, oui.
C'est spécial comme décision.
Oui. Oui, parce que si jamais leur truc service de merde, ça marche pas, bah, y a zéro, quoi.
Bon, on arrive sur le segment des fausses news.
Ah.
Un groupe de hackers a piraté les serveurs de Epic Games et volé 200 gigas de données, incluant les emails, les informations bancaires, les noms, les emails de leurs abonnés. En fait, non. Non, c'est pas arrivé du tout. Donc c'est un groupe de... C'est un groupe de hackers qui a prétendu avoir hacké Epic, qui récupérait toutes ces informations. Ils ont exigé une rançon auprès d'Epic et menacé de révéler toutes ces informations et de les vendre plus en France sur le dark web.
C'est ça.
Epic, la première réponse d'Epic a été « c'est bizarre parce que c'est...
Ah bon ?»
On n'a pas trop... Alors... C'est possible, hein, mais en principe, ça laisse des traces quand même. Hein, tu
ça
vois,
se voit quand même.
Là, on n'a pas trop de preuves et ce groupe de hacking n'a pas vraiment présenté de preuves pour prouver ce qu'ils ont fait. Et en fait, voilà, le groupe de hacking a admis que c'était bidon et qu'ils ont essayé de tirer une rançon de Epic. Voilà, hein.
Ils ont bluffé sur Epic, sur ça.
Voilà, et j'ai envie de dire, ok, ouais, ça se tente.
Bah non, c'est pas la peine, ça, quoi. Je veux dire quand même.
Bien essayé, mais c'est raté. Donc voilà, si vous avez un compte Fortnite, rassurez-vous, votre mot de passe n'a pas été volé. Epic toujours.
Ils sont cons, les gens.
Suite aux dernières. Non, ils sont cons, les gens, j'en peux
ah,
plus.
On est vraiment dans un monde de tarés complet, quoi.
Suite aux dernières législations européennes qui autorisent des éditeurs tiers à monter des boutiques indépendantes sur les appareils Apple.
Eh oui.
Hein, tu n'es plus obligé de passer par l'Apple Store pour vendre des trucs sur un iPhone et un iPad. Epic a dit cool, je vais faire ma propre boutique et on va pouvoir faire revenir Fortnite sur.
C'était l'enjeu du procès. D'accord.
Et Apple a dit.
tout le monde
non.
sauf Epic. Hein.
Voilà, ils ont dit non, tout le monde sauf Epic et ils ont donc banni Epic de leur programme de développeurs.
Ils ont le droit.
Ils ont dit que de façon démontrable et prouvable, Epic n'est pas un développeur de confiance.
Oui, mais... Ah ben ça va bien se passer encore ça.
Epic a dit ok, ben on va demander quand même leur avis à la Commission européenne pour qu'ils puissent trancher parce qu'on n'est pas trop d'accord.
Ben c'est ça.
Et Apple a dit ah non finalement c'est bon. Donc voilà, encore une fausse news, ce n'est pas arrivé.
Oh putain, là, mais c'est pas possible.
Un coup de bluff d'Apple.
Alors que...
Donc là, ouais non, Epic très numéro 1 sur contrer les bluffs là cette semaine, c'est...
Non, mais je veux dire, on est sur un conflit entre Apple et Epic et on dirait une télé-réalité.
Ah non, mais, ah non, mais les générations futures vont en parler encore. Hein, la guerre des teams, hein, de Tim Sweeney contre Tim Cook,
C'est nul.
C'est vraiment... qu'est-ce que je pourrais faire pour l'emmerder?
Oui, c'est ça.
Le mec, il se lève le matin, il fait... quelle heure il est? Oh, okay.
C'est
il fait son thé, il est en train de tremper son truc dans son thé le matin. Il se dit, comment je pourrais faire chier Tim Sweeney aujourd'hui? Mais c'est gratos. Donc non, voilà, c'est pas passé. La trilogie complète Final Fantasy VII Remake sera exclusive à la PlayStation. Ah, en fait, non. Là, encore une fausse news.
De quoi, la trilogie, quoi?
FF7 Remake.
Oui, donc les...
les deux qui sont
Rebirth,
là.
Remake, Rebirth, c'est le prochain.
Et Re3. Le Washington Post a publié une interview de... je sais pas qui. Dans le cadre d'une interview publiée par le Washington Post, donc le Washington Post a annoncé que la trilogie complète FF7 Remake serait exclusive aux consoles de Sony.
Bah c'est pas le cas quand même.
Alors, le Washington Post a immédiatement, quelques heures plus tard, été forcé de publier
un démenti
pour dire actuellement Final Fantasy VII Remake est disponible sur PlayStation et sur PC. Final Fantasy Rebirth est exclusif à la PlayStation. Et l'exclusivité potentielle d'un troisième épisode n'a pas encore été négociée.
Exactement.
Hein donc voilà, on se calme. Voilà. Bon, la vérité, c'est que le troisième sera exclusif à la PS5. voire à la PS6. Hein, on va être concrètement... on sait ce qui va se passer. Mais voilà, si c'est pas encore signé, c'est vrai que si tu commences à l'annoncer, la négociation est un peu plus compliquée. Quoi.
Non, mais après, si tu me dis que le premier est sorti sur PC, déjà c'est plus exclusif.
Ouais.
Donc tu peux pas parler.
C'est une exclusivité console, tu l'as pas encore sur Xbox, quoi.
Tu peux pas parler d'exclusivité totale PS5.
Et franchement, vu la direction que prend l'industrie, moi je parierais pas.
Le cas, hein.
Je pense que ces jeux-là vont arriver un jour sur Xbox.
Oui.
Je conseillerais à personne d'attendre la version Xbox, parce que ça peut prendre du temps et ça peut ne jamais arriver. Mais si demain, ils annoncent, et le 3 va sortir, on l'annonce, et pour fêter l'annonce du 3, le premier est disponible sur le Game Pass.
C'est possible.
Ça m'étonnerait pas. Mmh. Ça m'étonnerait pas. Mais bon, on verra. Une démo de Stellar Blade est sortie. Ou pas.
C'est pas le truc
que
avec
des fausses news. Ouais, avec
la fille à poil.
Pas du tout. Elle est habillée de la tête aux pieds.
Elle est habillée,
c'est juste
mais
extrêmement moulant.
Voilà, c'est extrêmement serré.
Et couleur peau. Mais sinon, elle est habillée.
Elle est habillée.
Donc, sois pas mauvaise langue.
Non, je suis pas mauvaise langue. Elle est tout à fait habillée, cette jeune femme. Et elle est très contente d'être habillée.
Exactement. Donc, une démo de Stellar Blade est sortie pendant 30 minutes, hein, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était une connerie. Ils l'ont virée.
Ah, ça marchait pas?
Si, ça marchait, mais ils n'étaient pas censés la sortir, c'était pas prévu du tout. Donc une demi-heure après que la démo ait été live sur le PlayStation Store, cette démo a été retirée, et plus loin que ça, Sony a lancé une mise à jour pour révoquer les licences de cette démo, c'est-à-dire que même ceux qui ont pu la télécharger pendant cette demi-heure, on leur a retiré.
Normal,
un truc que Sony n'a jamais fait de l'histoire de la PlayStation, même pour péter, ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont fait là.
D'accord.
Donc voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Du coup, il y a des gens qui ont joué, quand même, les plus
mais
rapides.
Est-ce que la démo devait sortir non, alors, à
visiblement,
un autre moment?
Oui, elle va sortir, c'est pas annoncé encore, mais je pense qu'on peut en conclure qu'il y a une démo qui arrive pour Stellar Blade.
D'accord.
Les gens vont pouvoir tester. Il y a des gens qui ont pu tester hein, et qui parlent d'un jeu qui a l'air plutôt sympa. Hein. Les combats ont l'air cool. Mm. Pas trop bourrin, il faut réfléchir un petit peu sur les combats. Il y a un côté...
Mais comment tu fais, du coup, pour te concentrer alors que t'as le cul de l'autre?
Mais hein. c'est toute la difficulté
c'est
du jeu.
C'est toute la difficulté
exactement.
Du jeu.
Exactement. Il y a des vidéos de la démo du coup qui tournent en ligne hein, il y a avec des images
ils
en particulier
ont fait des hentai, ou...
très vite ça va arriver hein, je pense qu'ils vont extraire le modèle immédiatement pour non mais ils ont montré un petit peu les costumes disponibles et effectivement ça a l'air d'être un des points forts ou faibles selon ton point de vue du jeu les costumes frisent le ridicule évidemment
oui c'est... parce que les autres costumes elle est pas habillée par contre
ah si mais tous ils sont tous scandaleux quoi ça va pas du tout et c'est vraiment clairement quelque chose qu'ils mettent en avant dans le jeu et c'est pas forcément de très bon goût. Le jeu sort le 26 avril, la démo va sortir sans doute quelque part avant. On aura l'occasion de la tester.
D'accord.
PlayStation achète Arrowhead, le développeur de Helldivers 2, ou pas ?
Mais...
Non, c'est le thème, c'est que des fausses news cette semaine.
De toute façon, il vaut mieux pas qu'ils les achètent.
L'annonce a été faite sur Twitter, hein. Il y a beaucoup de leakers célèbres et généralement plutôt fiables qui ont annoncé que ça y est, Arrowhead Studio, le développeur d'Helldivers 2, avait été acheté par PlayStation. Des rumeurs qui ont été démenties dès le lendemain par le patron du studio Arrowhead en disant non, nous n'avons pas été achetés, ces rumeurs sont fausses, nous n'avons pas été achetés et nous ne sommes pas à vendre. Tout ceci est faux, à moins que j'ai raté quelque chose, mais en tant que fondateur et CEO, je pense que je serai au courant. Voilà. Et il dit même que la fuite, enfin le fait qui est particulièrement pourri, et utilise un vieux logo de 2008, donc ça n'a aucun sens.
D'accord, voilà. Bon bah très bien.
Donc il se passe rien. Ça fait 5 news d'affilée, en fait il s'est rien passé.
En fait il s'est rien passé, c'est
donc,
ça.
Donc c'était la section que vous pouviez sauter de cet épisode.
Mais c'était drôle.
Ouais, c'était drôle. En tout cas, Helldivers 2, ça fonctionne bien, les mecs sont disponibles, ça y est, c'est sorti, la mise à jour est sortie. Et ils ont fait cette mise à jour de façon assez intéressante, puisqu'ils en ont fait une mission globale dans le jeu. Tu sais, quand tu joues Helldivers, quand tu vas sur la carte de la galaxie, il te montre des barres de progression communs à tous les joueurs, à l'ensemble de la communauté, pour libérer des planètes, des trucs comme ça. Mm. Et le but du jeu, c'était vraiment, c'est la planète où il y avait les manufactures des mecs qui étaient prises par les cafards, qu'il fallait libérer. Et une fois que la planète est libérée, les mecs sont devenus disponibles pour tous les joueurs. Donc c'était très mignon, les gens étaient très contents, et ils ont réussi à libérer la planète, évidemment. Ghost of Tsushima...
Ah.
Director's Cut arrive enfin sur PC.
Ah.
La version PC de Ghost of Tsushima, un des rares jeux, exclusivités de la PlayStation qui n'avait pas encore de version PC,
c'est vrai.
A été annoncée pour le 16 mai.
D'accord, bon. C'est bien.
C'est bien, c'est bien. Alors pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que c'est un jeu qui tourne sur un moteur propriétaire. Hein. C'est un moteur interne de Sucker Punch.
D'accord.
Donc ils s'en servaient avant quand ils faisaient les Infamous.
D'accord.
C'est ce même moteur, version améliorée évidemment, qui a servi pour Ghost of Tsushima. Hein. Donc il y a eu un travail d'adaptation. C'est le studio Nixes qui est spécialisé dans le portage PC de jeux console, qui a fait ça, Nixes, qui est maintenant un studio interne de PlayStation. Donc ça, c'est une version qui comprend le Director's Cut, hein, donc c'est le jeu complet, c'est l'extension Ikishima, c'est le mode multijoueur légende, c'est voilà, tout le contenu de Ghost of Tsushima qui est disponible, ouais. Avec bien entendu des fonctionnalités PC attendues par les gens qui ont des gros PC, avec un support des écrans larges et des écrans ultra larges, résolution à 26/9, 32/9, même 48/9 pour ceux qui ont triple écran.
Triple écran.
Et toutes les lettres à la mode qui marchent bien, le DLSS 3, DLAA, FSR 3, FSR 3 natif, voilà, upscaling Intel. Il y a tout ce qu'il faut pour une bonne version PC d'un jeu qui visuellement risque de défoncer sur PC.
C'est clair.
Ça va être plutôt cool. C'est intéressant qu'ils fasse l'effort de porter ce moteur sur PC. Peut-être qu'on peut supposer que si un Ghost of Tsushima 2 qui arrive, la version PC arrive un petit peu plus vite derrière. Voilà. La semaine dernière, la semaine passée, quand on parlait des licenciements, on parlait un petit peu de la différence qu'il y avait entre le Japon et les États-Unis, surtout en qualité de l'emploi, sécurité de l'emploi. Mmh. Et on continue dans ce sens-là. Là, on parle de Capcom. Capcom qui fait carton sur carton ces dernières années, qui marche particulièrement bien. Il marche bien grâce à une équipe extrêmement talentueuse qu'ils arrivent à retenir. C'est pas des gens qui sont soit virés, soit qui ont envie de partir. Et ils continuent dans ce sens-là. Capcom a annoncé une augmentation de salaire globale pour l'ensemble des employés de Capcom.
Cool.
Avec un salaire de base qui est augmenté de 27,7%.
Putain, c'est énorme.
C'est énorme, et surtout que ça sert de base, c'est le salaire de base, c'est-à-dire que c'est le salaire minimum qu'ont les gens qui rentrent chez Capcom.
Ouais.
Sachant qu'au Japon, voilà, ta relation par rapport à ton emploi au Japon est assez différente. Quand tu rentres dans une boîte, tu rentres pour la vie. Hein.
A priori, oui.
Voilà, a priori, oui, à moins que quelque chose de catastrophique, tu y fais ta carrière. Et c'est des boîtes qui prévoient une évolution salariale et une évolution de carrière bien carrée, bien précise. Donc c'est comme dans Balatro, si tu augmentes le chiffre de base, c'est exponentiel après. Tu vois. C'est extrêmement intéressant. Mmh. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient déjà augmenté les salaires en avril 2022. Ouais, c'est ça, c'était en 2022.
Non, mais en plus, c'est une hausse importante, quoi. C'est énorme.
C'est une hausse importante et c'est quelque chose de relativement fréquent au Japon. Koei Tecmo avait fait la même chose, Bandai Namco avait fait la même chose. Et le but, c'est d'attirer le talent et de conserver le talent en interne.
Mais en fait, quand ils font des bons chiffres, ils le répercutent sur leurs employés. Ce qui est super, quoi.
C'est ça, ils le répercutent sur leurs employés parce que c'est un investissement qui fonctionne. Tu as des gens qui connaissent le moteur, qui connaissent les façons de travailler, qui ont plus efficace. Jason Schreier avait fait un article sur Final Fantasy VII Rebirth à l'époque. Ils avaient interviewé la productrice qui avait dit voilà, comment vous avez fait pour faire Rebirth aussi vite après Remake ?
Et ils avaient dit
non, mais c'est les mêmes personnes qui sont restées. On avait les habitudes, on avait les automatismes, on avait les process. Il y a tout qui marchait, tout était sur les rails et tout continuait. Mmh. Et du coup, les choses se sont faites de façon naturelle. T'as pas à réapprendre la base à des gens qui viennent d'arriver et qui ont peur de se faire virer tous les matins, quoi. Allez, on avance un petit peu, on va finir cet épisode. Mise à jour de Sea of Thieves, hein, Sea of Thieves qui prépare sa sortie sur PS4 à la fin du mois d'avril.
PS5,
à la fin du mois d'avril. Qui met à jour certains petits détails, en particulier un détail intéressant. Ils vont activer le jeu solo, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais qu'ils ont lancé en fin d'année dernière les serveurs privés.
Oui.
Donc tu pouvais aller sur tes copains sur un serveur privé, tu vas pas rencontrer d'autres joueurs, tu vas pouvoir faire ta piraterie comme tu veux.
Mais tu gagnes moins d'XP.
Tu gagnes moins d'XP, mais bon, au moins t'es tranquille. Et si tu veux vraiment jouer solo, pas d'amis, pas d'ennemis, tout seul sur un serveur privé, ils vont flaguer ça à partir de maintenant comme un vrai jeu solo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'abonnement Xbox Live pour y jouer, et tu n'auras pas et sur la version PlayStation, tu n'auras pas besoin d'abonnement PlayStation Plus pour y jouer. C'est reconnu comme un jeu solo, et donc du coup, tu peux jouer à Sea of Thieves sans abonnement multijoueur. Voilà. Ils mettent les choses en place, c'est plutôt cool, ils mettent aussi en place un système anti-tricherie, et ils se préparent pour cette sortie, hein, qui risque de faire un carton. Actuellement, Sea of Thieves est le jeu le plus précommandé sur le PlayStation Store, si tu vas aux États-Unis en tout cas, si tu vas voir sur le PlayStation Store les jeux à venir, qui est-ce qui est le plus précommandé, ça va être Sea of Thieves devant les gros jeux qui arrivent, des Stellar Blade, des Rise of the Ronin, des le truc de baseball là, MLB The Show. Voilà. C'est tout pour l'actu. Aza.
Oui.
Alors, on a des sorties.
Bah oui, mais ça, il fait 3h30 cet épisode.
Ouais, j'en peux plus. Je sais pas comment on va faire, on va le sortir en retard. Hein.
Bah, je sais pas.
Ça fait 4 jours. Mais c'est parce que j'ai annoncé la taille de l'épisode en début d'épisode. Et
mais forcément, ça m'a porté la poisse. On respecte pas la taille.
Voilà. Écoute, on va pouvoir terminer vite puisque sortie, il n'y a rien. Voilà, merci. Ah. Au revoir. À la semaine prochaine.
Il y a rien du tout ?
Non, il y a rien du tout.
Bon, ben. Bah,
okay. Non, mais que dalle, quoi.
D'accord.
Non, il y a peut-être des trucs, tu vois, mais rien d'intéressant.
D'accord.
Non, jouez à Unicorn Overlord plutôt. Vous finissez les 50 jeux que vous avez.
C'est ça. C'est pas plus mal.
Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je ne suis pas inquiet pour vous. Des bisous à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci, Asa.
Merci
à tous. On vous souhaite une excellente et incroyable semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye.